7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce mardi 2 juillet. Gros orages, on l'a dit cette nuit en Auvergne-Rhône-Alpes. Des dégâts, des coupures de courant, des perturbations dans les gares. 5 départements sont en alerte orange. On fera le point dès 7h avec Hélène Zélani. Cet épisode qui succède, on l'a dit, à la canicule lors du pic vendredi dernier. 4000 écoles ont dû fermer. Les bâtiments scolaires sont-ils encore adaptés? Faut-il transformer? Et comment? C'est l'enquête de ce matin. Non, Europe 1 va plus loin, 7h20. Coup de colère d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Les 28 ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le casting des dirigeants de l'Union européenne. L'édito de Jean-Michel Apathy n'a pas manqué à 7h40. Record d'affluence attendu ce soir à Lyon pour États-Unis-Angleterre, première demi-finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Le match se jouera à guichet fermé. À 8h35, le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix, Europe 1, radio officielle de la compétition. Il dirige l'Institut du Monde Arabe. Il conserve un regard acéré sur le monde politique et sur l'actualité, la culture, l'état du PS, les municipales à Paris. À 7h45, Jack Lang sera mon invité. Voilà pour le programme. Je suis très content de vous retrouver pour cette dernière semaine avant les vacances. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et merci de nous avoir choisis en ce mardi 2 juillet. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Je suis encore plus content de vous retrouver pour bien commencer la matinale, Hélène Zélani. Comment ça va?
Bonjour, ça va très bien. Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Des chutes d'arbres, des coupures d'électricité, des TGV arrêtés, orages accompagnés de grêles et de vents violents qui se sont abattus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Précision de Jean-Luc Boujon dans un instant. La foudre s'est abattue sur les salariés de Conforama. Ils viennent d'apprendre la suppression de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins l'an prochain. Et puis sale temps pour Adil Rami, le footballeur champion du monde qui a quelques soucis personnels et désormais sous le coup d'une procédure disciplinaire à l'OM.
Europe 1.
Après la chaleur, il y a décidément de l'orage dans l'air. 5 départements sont donc ce matin en alerte orange. Quant à Haute-Loire, Lozère, Ardèche et Gard, hier soir, les éclairs se sont abattus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des vents très violents et des grêlons impressionnants, Jean-Luc Boujon.
Oui, des grêlons parfois gros comme des balles de tennis. Ça a été le cas notamment dans le Puy-de-Dôme et dans la Loire. Dans la Loire, justement, à Villars, où 2 personnes sont restées coincées dans leur habitacle suite à la chute d'un arbre sur leur voiture. Ce sont les pompiers qui sont intervenus. Même chose en Isère, avec 150 interventions des pompiers pour la seule soirée d'hier. La préfecture fait état d'une quinzaine de blessés légers à cause de chutes d'arbres ou d'explosions de vitres. En Haute-Savoie, un homme a également été blessé assez sérieusement suite, là encore, à la chute d'un arbre sur son camping-car. Il a été hospitalisé. Puis toujours en Haute-Savoie, à Doussard, au bord du lac d'Annecy, c'est la toiture de la salle des fêtes qui a été arrachée par le vent pendant un concert, raconte Madame le maire Michel Lutz, qui était présente.
C'est une tornade qui arrive, qui se pose là et qui, pendant 5 minutes, ne vous lâche pas. Franchement, un coup de vent, mais énorme. Et en fait, une partie du toit s'est envolée. Nous étions à environ 200-220, donc des choses ont commencé à s'effondrer. On a eu très très peur parce qu'en fait, il y avait beaucoup de musiciens qui étaient là. Et tout le monde a pu se regrouper très très vite le long des murs. Personne n'a paniqué. Ça volait dans tous les sens, mais surtout ça tombait dans la salle. Personne n'était blessé. Tout le monde avait vraiment vraiment su se regrouper, écouter. Et voilà, mais ça aurait pu être un drame tout ça.
Alors, au niveau des coupures de courant, Enedis annonce 49 000 foyers privés d'électricité à l'heure qu'il est dans les Alpes, un chiffre qui est en train de diminuer. C'est moitié moins que cette nuit. Les techniciens sont à pied d'œuvre et ont travaillé une partie de la nuit. Et puis, de grosses perturbations aussi côté SNCF. À 7h, les lignes Lyon-Grenoble, Aix-les-Bains-Annecy et la ligne de la Tarentaise ne circulent toujours pas, notamment à cause d'arbres tombés sur les voies. Et puis, 2 TGV Paris-Grenoble avec à bord 500 passagers chacun ont dû s'arrêter hier soir à la gare de l'aéroport Saint-Exupéry. Ils ont passé la nuit dans le train avec bouteilles d'eau et plateau repas. Et la SNCF annonce un départ imminent, là, dans les minutes qui viennent, en direction de Grenoble, mais en passant par Valence, où là, la ligne est dégagée.
Jean-Luc Boujon en direct de Lyon pour Europe 1. Toutes les alertes canicules sont désormais levées, mais ces fortes chaleurs ont été assez catastrophiques pour les vignobles de l'Hérault et du Gard. Des milliers d'hectares ont été brûlés. En revanche, dans le Bordelais, étonnamment, la canicule a plutôt eu des effets bénéfiques, notamment parce qu'elle a permis aux vignes de se préserver d'un redoutable champignon, le mildiou. Philippe Bardet est viticulteur à Saint-Émilion.
C'est un très très bon début. C'est comme si dans un match de foot, on fait 2-0 dans les 10 premières minutes de jeu. C'est pas gagné, mais c'est bien parti.
Les 4 jours de canicule, c'est les 2 buts dont vous parlez là.
Pour nous à Bordeaux, totalement. Cet extrême-là, si précoce, est très intéressant pour la vigne à Bordeaux. Parce que les raisins étaient encore petits. Lorsqu'ils sont petits, néoformés, ils sont très sensibles au mildiou. Le mildiou n'aime pas du tout les canicules. Donc ça nous a permis de faire un traitement ultra efficace contre le mildiou et économiser énormément de pesticides. Ça, c'est une première bonne chose. Deuxièmement, la nature étant bien faite, la vigne qui manquait pas d'eau parce qu'il n'y avait plus suffisamment au printemps, elle avait les pieds dans l'eau, mais la vigne, malgré tout, a pris le signal comme quoi il allait faire chaud et il risquait de faire sec. Physiologiquement, elle se met à protéger ses raisins plutôt qu'à produire des feuilles et des rameaux. Donc ça, c'est une très bonne augure pour la qualité du millésime en cours.
Un viticulteur de Saint-Émilion optimiste au micro européen de Stéphane Place.
Il est 7h04.
Coup de massue pour les salariés de Conforama juste avant les vacances.
Oui, ils ont appris hier soir par les syndicats qu'une trentaine de magasins sur près de 200 allaient fermer, 1900 postes supprimés, Olivier Samant.
Le choc reçu tour à tour hier soir par la direction. Les syndicats savaient que des mesures douloureuses étaient en préparation, mais pas aussi rapidement et pas d'une ampleur aussi importante. 32 magasins fermés, soit un peu plus de 1000 salariés au tapis, auxquels s'ajouteront près de 900 suppressions d'emplois dans les magasins restants, ainsi qu'au siège et dans les équipes du service après-vente. Au total, si le plan est mené à son terme, dans un horizon de 18 à 24 mois, un emploi sur 5 aura disparu chez Conforama en France. Très connu des consommateurs et implanté pour ainsi dire dans chaque sous-préfecture, la marque paye les conséquences d'un marché de l'ameublement et de l'électroménager grand public fortement déprimé l'an dernier, mais aussi et surtout les conséquences de la tourmente dans laquelle s'est retrouvé il y a 2 ans son actionnaire principal, le groupe sud-africain Steinhoff, pris en flagrant délit de malversation comptable. Il y a 2 mois, Conforama avait trouvé un accord avec ses créanciers. Il était question déjà d'une restructuration des magasins déficitaires. Le détail était attendu pour le printemps prochain. Il survient finalement aujourd'hui, juste avant le départ en vacances.
Olivier Samain, et les détails seront annoncés ce matin lors du comité central d'entreprise extraordinaire convoqué au siège de Conforama en région parisienne. Et puis, nouvelle journée de mobilisation pour les personnels des urgences en grève depuis la mi-mars. Selon leur collectif, plus de 150 services suivent le mouvement. Aujourd'hui, manifestation nationale à Paris entre les ministères de l'économie et de la santé.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Et de 3, troisième rendez-vous pour les 28 à Bruxelles. Pour essayer de se mettre d'accord sur le casting de la nouvelle équipe dirigeante, pour l'instant ça ne marche pas. On vous dit pourquoi dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Seliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Cela donne une très mauvaise image de l'Europe, déplorait hier le président de la République Emmanuel Macron. Les 28 se retrouvent ce matin à Bruxelles.
Et oui, hier, malgré 18 heures de négociations, les chefs d'État de l'Union se sont quittés sans réussir à attribuer les postes clés des institutions européennes. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette pause de 24 heures ?
Déjà, ils ont dormi et c'est tout sauf anecdotique. 7 d'entre eux, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel, ont enchaîné le G20 d'Osaka avec la nuit blanche à Bruxelles. Le manque de sommeil a pesé sur les débats. D'ordinaire, dans les négociations européennes, le fait de travailler avant l'aube aide à accoucher de solutions, raconte un diplomate. Mais cette fois, c'était une source de crispation. L'ambiance entre les 28 se tendait, il fallait calmer les esprits, a reconnu le président de la République. Depuis hier, il y a aussi eu des consultations, bien sûr, notamment pour faire réfléchir les premiers ministres de la droite conservatrice qui ont lâché Angela Merkel. L'Irlandais Varadkar, par exemple, qui a pourtant besoin de Paris et Berlin sur le dossier Brexit, ou le Croate Plenković, que la chancelière avait été soutenir pendant sa campagne électorale. On va leur faire passer quelques messages, expliqués hier soir une source européenne. Est-ce que cela suffira ? Honnêtement, plus personne n'ose faire de pronostic. Mais le temps presse, car le Parlement européen doit élire demain son président. Les dirigeants doivent boucler aujourd'hui s'ils veulent influencer ce choix.
Isabelle Horry à Bruxelles, reprise des discussions ce matin à 11h.
Football, après avoir tutoyé les sommets, le retour sur terre est douloureux pour Adil Rami.
Oui, il y a un an, c'était l'un des héros, champion du monde, avec une joie de vivre qui avait boosté toute l'équipe de France. Aujourd'hui, il fait la une des journaux People après sa rupture avec Pamela Anderson et il risque d'être licencié par l'OM pour faute grave. Son club a ouvert une procédure disciplinaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François Pérez ?
C'est un refrain hélas bien connu dans le football, celui du joueur couronné, adulé, mais qui n'arrive plus à enchaîner, la tête perdue dans les nuages. Depuis la glorieuse campagne russe, le jovial Adil Rami n'est plus que l'ombre de lui-même. Sur le terrain, une accumulation de blessures et de contre-performances. En coulisses, des retards, voire des absences à l'entraînement et globalement un manque d'implication qui ont fini par lasser ses dirigeants. Grisé par son nouveau statut, l'ancien employé municipal de Fréjus a également vécu sous le feu des projecteurs une liaison amoureuse avec l'actrice Pamela Anderson. Celle-ci s'est terminé dans l'amertume et des menaces de procès de part et d'autre, à 1000 lieues de son métier de footballeur international et de l'exigence qui va avec. C'est justement ce que déplore notre consultant Alain Roche.
Quand on s'appelle Adil Rami, quand on est champion du monde, qu'on a plutôt une très bonne image de l'extérieur, d'un garçon sain, Mais là, on doit être irréprochable.
Il y a quelques semaines, Adil Rami avait promis, je cite, de péter la baraque cette saison avec l'OM pour faire oublier cette séquence cauchemardesque. Il pourrait ne même pas en avoir l'occasion dans un club condamné aux économies et qui se délesterait volontiers d'un de ses plus gros salaires.
Jean-François Pérez. Et puis ce soir à Lyon, première demi-finale du mondial féminin entre les États-Unis et l'Angleterre. Coup d'envoi à 21h à guichet fermé au Parc OL.
Vous êtes pour qui, vous, Hélène Zelani?
Oh, je crois que c'est les États-Unis qui vont gagner, non?
Ouais, on est pour l'Angleterre.
Moi, je suis pour la France. Mais t'as rien compris. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11. Nico, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot.
Bonjour, Martin.
Bonjour, Nico.
Alors, vous êtes où ce matin?
Alors, je suis devant le local d'une association d'aide aux SDF à Paris. Alors, il y a du passage, hein, des personnes dans la précarité qui, parfois, cherchent du travail. Eh bien, cette association, Nikos, leur propose d'en trouver grâce aux réseaux sociaux. L'idée, eh ben, en fait, c'est de publier leur CV en ligne sur un site internet afin que chacun d'entre nous, d'un simple clic, puisse leur donner de l'écho, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Et ça a du sens parce que chercher un boulot quand on vit dans la rue depuis 10 ans comme Kenny, bah c'est souvent compliqué.
Quand on est sans domicile fixe, on a toujours tout un tas de démarches à effectuer. C'est pas toujours facile et il n'y a pas forcément grand monde qui sont là pour nous aider. Il y a un matin où j'avais pas pu me laver, j'avais rendez-vous au Pôle emploi à 10h, je sentais des pieds, je sentais la sueur, et bah j'ai eu honte et je suis pas allé à ce rendez-vous. Alors que là, avec ce réseau, tout d'un coup c'est facilité. Donc c'est un peu comme une toile qui va se tisser, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et qui ça va forcément déboucher sur quelque chose plutôt assez rapidement.
C'est le lien, hein, c'est important pour cela, les réseaux sociaux, plutôt que de balancer la haine et de se défouler dessus. Comment décrivent-ils leur parcours sur leur CV ?
Eh bien, l'association les aide à rédiger un CV qui casse les codes du CV classique. Déjà, ils arborent un grand sourire sur leurs photos. Et puis, le premier paragraphe, ce n'est pas une liste de diplômes, non, c'est un condensé de leur vie en quelques lignes.
Il y a un petit bout de mon histoire, pour pas que la personne soit surprise. Voilà, j'explique que j'ai passé des années dehors, j'explique que je suis issu de l'aide sociale à l'enfance, mais que malgré ces difficultés, j'ai toujours su rebondir. Un petit paragraphe avec des mots-clés en rouge, avec ponctuel, aime le travail en équipe, très bon relationnel, bonne endurance physique. Voilà, il y a mes atouts, mes coordonnées. Aux personnes, après, aux riverains, de partager ce CV. Et même le fait de partager ça sur un réseau social, il est du coup beaucoup plus visible.
Oui, on parle de la vie de personne et non pas d'une étiquette SDF. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats sur le site ?
Alors la plateforme est lancée ce matin et il y a déjà 15 personnes SDF qui ont publié leur CV. Ils cherchent dans le secteur animalier, dans la restauration, le service. Vous pouvez aller les consulter, ces CV, et les publier sur vos réseaux. C'est tout simple si vous souhaitez leur donner un coup de pouce.
Bah écoutez, on va donner le site, mon cher Martin Fenot, c'est linkedout.fr, linkedout.fr. Merci Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
On parle de quoi ce matin?
Bah écoutez, du grand débat qui agite les économistes en ce moment, et si on laissait filer la dette?
Ah bon?
Voilà.
C'est ce que vous souhaitez?
Pas exactement.
Vous nous direz pourquoi. À 7h20, au plus fort de la canicule, 4000 écoles ont dû fermer vendredi dernier. Les bâtiments sont-ils complètement inadaptés? Faut-il les transformer? Et comment? C'est l'enquête d'Europe 1 va plus loin. Dans quelques instants, à tout de suite. Bon réveil à tous.
Très belle matinée, il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Une quinzaine de blessés, des dégâts matériels importants, de violents orages se sont abattus cette nuit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques 100 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. Le plan de restructuration chez Conforama, présenté ce matin en comité d'entreprise, 1900 postes doivent être supprimés, 32 magasins fermés. Manifestation nationale à Paris pour les personnels des urgences, ils demandent toujours plus de moyens et veulent maintenir la pression sur le gouvernement.
Europe 1. Et c'est l'heure, Nikos, de l'édito éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos.
La France est l'un des mauvais élèves en Europe en matière de déficit et de dette publique. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Et de plus en plus d'économistes apparemment disent non.
Eh bien, en effet, effectivement, à part la Cour des comptes qui continue d'alerter sur la dérive des comptes publics, eh bien, de plus en plus d'économistes estiment que nos marges de manœuvre, en fait, sont beaucoup plus larges qu'on ne croit. Et mieux, ce sont d'ailleurs les mêmes économistes qui, il y a quelques années, s'inquiétaient du niveau de la dette et qui jugent aujourd'hui que le problème est moins grave que cela. Alors, pourquoi? Parce qu'un élément fondamental change la donne et n'a pas été suffisamment intégré dans leur raisonnement. C'est le fait que les taux d'intérêt sont désormais à zéro, voire parfois négatifs.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a intérêt à être endetté ?
On a intérêt à s'endetter, exactement. C'est la théorie, par exemple, d'Olivier Blanchard, qui est l'ancien chef d'économie du FMI auprès de Christine Lagarde. Il considère que tant que les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance, et c'est le cas aujourd'hui, puisque les taux sont à zéro, la croissance elle est supérieure, elle est autour de 1,5%, eh bien, on a tout intérêt à s'endetter, à une condition quand même que cet endettement serve à financer des dépenses d'investissement, un grand plan en faveur des énergies renouvelables, par exemple. Mais si la dette sert effectivement à financer des vrais investissements et pas des dépenses courantes, eh bien, disent ces économistes de plus en plus écoutés, y compris par le pouvoir, on a intérêt à continuer à s'endetter.
Mais est-ce que ces théories qui sont avancées par les économistes sont adaptées à la réalité française ?
Alors, bonne question, parce que la France, c'est le pays où les dépenses publiques courantes sont parmi les plus élevées du monde. Donc, la logique voudrait que, ou la bonne gestion, qu'on les réduise d'abord et qu'on utilise ces marges de manœuvre pour investir plutôt que d'augmenter la dette. C'est tout le danger de cette période de taux d'intérêt à zéro. Objectivement, effectivement, ça pousse à s'endetter. Il y a des besoins énormes à financer. On parlait de la transition énergétique. Et la tentation est grande, donc, de laisser filer la dette, en quelque sorte, en se donnant bonne conscience, puisque c'est pour financer des dépenses d'avenir. Mais on oublie juste un détail, c'est que le stock de dette que l'on a en France et qui a été accumulé depuis des années, qui représente l'équivalent d'une année de production de richesse, a servi en grande majorité à financer des dépenses courantes. La France n'a jamais su s'endetter uniquement pour financer des investissements. Si elle y parvenait demain, ce serait effectivement une révolution.
Nicolas Barré, l'édito éco de la matinale d'Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Et il est 7h18, on reparle à présent de cette canicule qu'on vient de traverser, Nikos, avec une question qui nous a beaucoup préoccupé, nous parents. Nos écoles sont-elles construites pour faire face à ces changements climatiques ?
D'autant plus qu'il a fallu fermer 4000 écoles vendredi, jour du pic de chaleur. Chiffre donné par le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe. Alors, comment se prépare-t-on aux étés chauds à venir ? Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste éducation pour Europe 1. D'abord, est-ce qu'on sait combien d'écoles n'ont pas de bonne isolation thermique ?
Alors non, on ne le sait pas puisqu'il n'y a aucun inventaire des 63 000 bâtiments scolaires à ce jour. Ça représente 150 millions de mètres carrés et c'est pour ça qu'un monsieur bâti scolaire va être nommé d'ici 15 jours au ministère de l'Éducation nationale et qu'un état des lieux a été lancé. Il est en cours, lancé il y a 6 mois. Alors ce qu'on sait, c'est que les profs ou les élèves ont signalé des problèmes de chaleur ou au contraire de froid l'hiver dans 92% des collèges et des lycées interrogés. C'est un chiffre issu d'une récente enquête du CNESCO, le Conseil à l'évaluation du système scolaire. Les bâtiments qui posent problème, disons la bête noire des personnels, ce sont, vous savez, les fameux collèges ou écoles paillerons à structure métallique. Il en reste quelques-uns, mais aussi beaucoup de ces écoles construites après, dans les années 70-80, avec une isolation très légère, pas suffisante du tout pour les 40 ou 45 degrés que les élèves doivent supporter dans certaines régions. Alors finalement, les écoles dans lesquelles il fait bon étudier en ces jours de forte chaleur, eh bien, ce sont les écoles du 19e siècle, avec des murs très épais ou même, par exemple en Bretagne, des cloîtres transformés en écoles.
Les murs de pierre qui gardent effectivement l'ombre et la fraîcheur. Ouais. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des constructions plus récentes, adaptées aux fortes chaleurs ? Est-ce que ça marche ?
Alors oui, ça existe, mais c'est cher. Par exemple, Saint-Antonin-Nobleval, un tout petit village du Tarn-et-Garonne, 2000 habitants, qui a investi 3,8 millions d'euros dans son école. Oui, c'est beaucoup pour une commune de 2000 habitants. C'est un reportage de Benjamin Péter.
De l'ancienne école, ils n'ont gardé que la cloche. Tout le reste a été complètement repensé. Les 135 enfants et les enseignants sont arrivés dès la rentrée de septembre. Et Barbara Delpech, la directrice, ne regrette vraiment pas ces anciennes salles de classe.
Il n'y avait pas d'isolation, une grande verrière qui gardait beaucoup la chaleur. Donc ça faisait un espèce de sauna en plein milieu des classes. Très difficile de faire circuler l'air en période de chaleur. Et là, c'est nettement mieux au niveau de la température. Vendredi après-midi, quand il faisait très chaud, dans ma classe, il faisait 27 en fin de journée. Alors que dehors, c'était très chaud. On a l'impression qu'il faisait frais dans l'école.
Si le bâtiment parvient à garder cette fraîcheur, même au plus fort de la canicule, c'est d'abord parce qu'il est constitué à 80% de bois, les baies vitrées sont en triple vitrage, aucun pont thermique dans la charpente de ouate de cellulose pour isoler, et dans les murs très épais, plusieurs centimètres de fibres de bois et du métis, un matériau fait avec des vêtements recyclés. Enfin, tout un système de ventilation veille à conserver une température quasi constante, comme l'explique l'adjointe aux affaires scolaires, Yannick Pavageau.
Il n'y a pas la clim, mais il y a un système de traitement de l'air. L'air est introduit, filtré, il est réparti dans les pièces, et la nuit, il y a une ventilation qui se fait automatiquement. Il y a des l'eau battant. Et le matin, à 6-7 heures, ça se referme, ce qui fait que on garde toujours ce côté tempéré.
Et ça fonctionne aussi en hiver, puisque l'école n'est pas équipée de chauffage. C'est cette ventilation qui permet là aussi de réchauffer les salles de classe. Enfin, des panneaux solaires sur le toit permettent de produire plus d'énergie que l'école n'en consomme. Un vrai gain sur la facture de la commune.
Alors, on ne peut pas construire des écoles neuves partout, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire, Virginie Selmen, pour améliorer les bâtiments qui existent déjà ?
Alors, j'imagine que vous pensez tout de suite à la climatisation.
Par exemple ?
Alors, oubliez, les maires que j'ai interrogés sont contre, d'abord parce que c'est irresponsable écologiquement, disent-ils, et puis aussi parce que ça coûte trop cher, il faut bien le dire. Alors, c'est un casse-tête vraiment, parce qu'une isolation optimale, ça se pense dès la construction. Donc, certaines communes envisagent, par exemple, d'appliquer des films teintés sur les grandes baies vitrées, ou bien encore d'équiper chaque classe de ventilateur, ça se fait par exemple à Paris, mais pour être efficace, à défaut de détruire pour reconstruire, il faudrait au moins faire une isolation extérieure des murs pour ne pas perdre de place. Là encore, le coût est élevé. Une certitude, les maires, les départements, les régions vont devoir mettre la main à la poche dans les mois ou les années qui viennent.
Repenser l'isolation de nos écoles, c'est important, mais aussi de tous nos bâtiments publics et administratifs. Le défi est de taille. C'est vrai que vous aviez déjà parlé, Anissa Mbida, de ces filtres que l'on met aux fenêtres et qui gardent la chaleur à l'extérieur et qui gardent la fraîcheur. Donc ça peut être utile, ça.
Oui, éviter la climatisation, c'est vrai que c'est... un paradoxe.
Oui, les maires en sont conscients, au moins, on a l'impression.
Virginie Selmen pour un dossier très intéressant ce matin, signé Europe 1 va plus loin.
Et pour agir, c'est simple, un Twitter, hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec Anissa Mbida ce matin, vous nous parlez de cigarettes. Pour arrêter de fumer, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ?
C'est des cigarettes avec du tabac sans nicotine, donc des cigarettes qui ne rendent pas dépendants et qui permettent d'arrêter plus rapidement de fumer.
C'est pas de la drogue, votre histoire ?
Non, la cigarette quand même, un petit peu.
Bon, Anissa, à tout de suite.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Alors évidemment, il n'est pas facile d'arrêter de fumer, notamment à cause de la nicotine qui crée l'addiction, le geste aussi, les petites habitudes. Mais bon, on a peut-être trouvé une technique pour aider à arrêter plus vite. Ça veut dire qu'on obligerait les cigarettiers à utiliser un nouveau tabac sans nicotine, un tabac qui évite de devenir accro à Nice.
Oui, et ça fait longtemps qu'on en parle. En 1995 déjà, il y avait un rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui montrait qu'en fumant des cigarettes avec peu de nicotine, on ne compensait pas en fumant plus. Au contraire, on s'arrêtait plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'en croisant différentes variétés de tabac, on a réussi à réduire, mais jamais à éliminer totalement la nicotine. Eh bien, c'est ce que viennent de faire des scientifiques de l'Université de Dortmund en Allemagne, par manipulation génétique. Donc, on va pouvoir fabriquer des cigarettes sans aucune nicotine, qui ne rendent pas dépendants, ce qui permettra d'arrêter beaucoup plus rapidement.
Mais ça existe déjà des cigarettes sans nicotine qui sentent bizarre, là.
Non, c'est pas des cigarettes. Là, on parle de tabac sans nicotine.
Sans nicotine.
Cigarettes qui sentent bizarre, justement. Ouais. Ce sont des mélanges
c'est
de plantes.
Ouais.
Non, pas de tabac. Et c'est pour ça que les fumeurs ne les aiment pas. Ils n'aiment pas leur goût. Mais attention, même sans nicotine, ça reste toujours aussi mauvais pour la santé, parce que c'est essentiellement la fumée qui pose problème.
Bien sûr,
c'est elle qui contient les particules cancérigènes.
Il faut tout arrêter de toute manière. Il n'y a pas de secret. Mais que pensent les fabricants de cigarettes, parce qu'en général, ils trouvent des scénarios absolument fantastiques.
Je vous laisse imaginer des cigarettes qui ne rendent pas accro, c'est pas très bon pour leur business, sauf qu'ils pourraient ne pas avoir le choix. Depuis quelques mois, aux États-Unis, on réfléchit à imposer un taux de nicotine maximal dans les cigarettes. Avec ce nouveau tabac, on pourrait descendre à un taux zéro, tout ça sans changer de goût, pour les amoureux de la cigarette.
Je suis amoureux d'une cigarette.
Merci Jacques Higelin. Mais croyez-moi, la nicotine n'est pas une bonne copine.
Non.
À terme, on sépare, il vaut mieux. Allez, le tabagisme fait 8 millions de morts chaque année, ne l'oubliez pas, dont plus d'un million chez les non-fumeurs. Merci Anissa Mbida, à demain.
C'était l'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann. Tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Des orages au programme aujourd'hui, cher Laurent.
Des orages, et il y en a. Alors ce matin, ils sont plutôt, disons, discrets. On en a trouvé, on les a repérés près de Bordeaux, par exemple. Mais ces orages seront surtout présents dans l'après-midi sur le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard, qui sont placés en vigilance orange. Donc des secteurs très dangereux, et en particulier l'Aveyron et l'Hérault, les plaines de l'Hérault, qui seront particulièrement exposées. En ce qui concerne les petites pluies de ce matin, matin, car il y a des petites pluies ou des bruines. Il y en a sur le Midi-Pyrénées, il y en a dans le Béarn, dans le Limousin. Nous avons repéré des pluies à Ruffiac, en Lot-et-Garonne, à Bergerac, à Neuvic, etc. Bon, ce sont des petites pluies qui font du bien, faut quand même le dire. En ce qui concerne les autres régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la région parisienne, le Berry et la Bourgogne, si vous avez en vue passer votre région, dites-vous qu'il fera beau dans ces contrées quant aux températures. Eh bien, elles vont se situer entre 21 et 29, température normale, of course.
Merci, thank you. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
À suivre, Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40. Toujours aucun accord à Bruxelles pour désigner les dirigeants de l'Union Européenne. Ça patine et ça agace Emmanuel Macron. 7h43, Axel de Tarlé, Amazon qui éteint son empire et qui achète des avions pour livrer lui-même ses colis. Décidément, jusqu'où iront-ils ? 7h45, il dirige l'Institut du Monde Arabe. Il conserve un regard acéré sur le monde politique. Alors évidemment, la culture, l'état du PS, les municipales à Paris. Dans un quart d'heure, je reçois Jack Lang. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 2 juillet, les 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Un plaisir de vous retrouver, Céline Calmano, manette ce matin, c'est parti.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Cela fait 3 mois que cela dure et le mouvement ne s'essouffle pas. Nouvelle journée de mobilisation dans les hôpitaux. L'intersyndicale appelle à intensifier le mouvement pour obtenir des hausses d'effectifs et de salaires. Selon le collectif interurgent, 153 services sont en grève. Ils étaient 106 lors des annonces faites par Agnès Buzyn il y a quelques semaines. Des annonces insuffisantes pour le personnel qui tente de gérer comme il le peut des situations très tendues. Inès est infirmière de nuit à l'hôpital Lariboisière à Paris. Elle sera dans le cortège parisien aujourd'hui. Elle aimerait avoir le temps avec chaque patient.
Pour moi, le pire, c'est qu'en tant que soignante, j'ai des valeurs. On m'a appris à l'école que le soin relationnel faisait partie du soin global. Et ça, aux urgences, c'est quelque chose qui est très mal mené, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Moi, ça m'est vraiment plus que pénible de faire mon travail comme un robot, finalement. Au niveau des patients, ça s'en ressent. C'est notamment ça qui aggrave les cas de violence. Ça fait 4 ans et demi que je suis aux urgences, donc des insultes, j'en ai reçu beaucoup. Des coups, j'en ai reçu. Des crachats, j'en ai reçu. Et ça ne va pas s'arrêter. Il y a des violences qui sont inévitables. Celles des cas psychiatriques, par exemple, ça fait partie du boulot. Quelqu'un qui me crache dessus, parce que ça fait trop longtemps qu'il attend, qu'il est inquiet pour sa mère. Ça, par contre, c'est inacceptable. Bon, là, ça, j'en ai marre.
Là, il faut vraiment taper un grand coup sur la table avec des vraies mesures qui vont vraiment assurer la sécurité des patients et la qualité de vie au travail des professionnels.
Inès au micro Europe 1 de Mélanie Gomez et puis le député du Parti communiste Alain Brunel en appelle à Agnès Buzyn. Il lui suggère de faire ce qu'il a fait vendredi soir. Il s'est rendu incognito aux urgences de Douai en simulant des maux de ventre. Il a passé 6 heures sur un brancard dans les couloirs de l'hôpital. Il dénonce une situation dramatique. 5 départements sont en alerte orange aujourd'hui. Météo France craint de nouveaux orages violents. Quant à Haute-Loire, Lozère, Ardèche et Gard sont concernés. Hier soir, il y a eu de gros dégâts dans 6 départements du Sud-Est. Une quinzaine de personnes blessées, notamment par des chutes d'arbres et de gros grêlons. Une centaine de voyageurs ont dû passer la nuit dans un train bloqué à Lyon. Au total, il y a eu plus de 100 000 foyers privés d'électricité. En avril dernier, Conforama avait annoncé une restructuration pour l'année prochaine. Hier, elle a donné des chiffres vertigineux. 1900 suppressions de postes en France en 2020. La fermeture de 32 Conforama, 10 magasins de l'enseigne Maison Dépôt. La direction qui a reçu hier soir les organisations syndicales a dit vouloir optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Un autre comité central est déjà programmé pour dans 10 jours. Le début hier devant le tribunal correctionnel de Lyon du procès de Stéphane Alzra, ce franco-israélien de 38 ans, comparaît pour une vaste escroquerie, une affaire de fraude à la TVA sur la taxe carbone. La somme détournée serait colossale, plus de 50 millions d'euros au préjudice de l'État français. Jean-Luc Boujon.
Non, Stéphane Alzra n'est pas cet escroc de haut vol qui durant des années a roulé tout le monde, y compris le fisc français. Non, assure-t-il, il n'est pas le cerveau de ce détournement monstre de 51 millions d'euros en seulement quelques années. Au contraire, à la barre, l'homme de 38 ans passe son temps à minimiser son rôle, son importance. Pourtant, quand il explique ses montages financiers, l'ouverture de comptes à Singapour ou le développement de sociétés offshore, Stéphane Alzra est subitement très à l'aise, beaucoup plus loquace. Son système était complexe mais très ingénieux, selon maître Olivier Dantin, avocat de la Caisse des dépôts.
Vous avez des escrocs qui constituent des sociétés fictives pour acheter hors taxe à l'étranger des droits carbone qu'ils ont revendus toutes taxes comprises en France par l'intermédiaire de l'Europe qui, dans la perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a mis en place une sorte de bourse. Et cette bourse a été dévoyée de son principe par des escrocs sans scrupules. scrupules pour détourner de la TVA dans des proportions considérables.
Mais tout cela est derrière lui, assure son avocate, maître Martine Malinbaum, qui affirme que son client n'est plus le même homme.
Il s'est marié, il a un enfant, 10 ans ont passé, c'est un autre homme, et peut espérer maintenant tourner cette page judiciaire. Il aspire à une vie de famille plus calme, une vie normale.
Un homme qui se serait donc rangé, mais qui risque tout de même une condamnation à 10 ans de prison. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Haute tension à Hong Kong, 22 ans après la rétrocession de l'archipel à la Chine.
Hier, des manifestants hostiles à l'emprise croissante de Pékin ont envahi le Parlement de force. Ils ont hissé le drapeau britannique, un geste fort et symbolique pour la jeunesse hongkongaise qui cherche à se faire entendre coûte que coûte. Écoutez Karim Lam, elle est chef de l'exécutif de Hong Kong sur la BBC. Elle dénonce des violences inacceptables.
C'est quelque chose que nous devons condamner fermement, parce que rien n'est plus important que l'application de la loi à Hong Kong. Donc j'espère que la population dans son ensemble sera d'accord avec nous pour dire qu'il est de notre devoir de condamner ces actes de violence auxquels nous avons assisté. Et nous espérons aussi que la société reviendra à la normale aussi vite que possible.
Et ce matin, le chef du gouvernement central chinois a fermement condamné les violences au sein du Parlement. Le mondial de football féminin, première demi-finale ce soir à Lyon, Angleterre-États-Unis, coup d'envoi 21h. Les supporters américains, 20 000 seront présents, beaucoup d'anglais aussi et de français, Simon Rubin.
Le premier record qui va tomber ce soir, c'est celui de l'affluence dans le stade. 60 000 personnes sont attendues à Lyon, ce qui va faire de cette États-Unis-Angleterre la plus forte affluence en France pour un match de foot féminin. Un engouement qui dépasse la France évidemment, puisqu'en Angleterre, on s'attend également à un record en termes d'audience télé. Le quart de finale avait attiré près de 8 millions d'anglais. Stéphanie Houghton, la capitaine anglaise, n'en revient pas.
On suit les audiences qu'on fait en Angleterre et c'est à chaque fois un record. C'est fantastique pour le football anglais et tout le football féminin en général. Il y a un engouement exceptionnel, de plus en plus de fans dans les stades. Les gens viennent nous voir, veulent nous voir. C'est vraiment incroyable pour ce sport. C'est la meilleure Coupe du Monde jusqu'à présent.
Et côté américain également, l'engouement est monumental. Malgré un horaire européen peu adapté, les audiences ont augmenté de près de 60% par rapport au Mondial 2011 en Allemagne. Et la chaîne Fox, qui diffuse les matchs, table sur un nouveau record pour cette demi-finale. Lyon, Simon Rubin, Europe 1.
Et puis le français Adrien Rabiot fait la une ce matin du journal L'Équipe avec sa maman, le milieu de terrain de 24 ans. Sa maman qui est son agent également. Le milieu de terrain de 24 ans qui était en fin de contrat avec le PSG va être présenté ce matin à 11h à la Juventus Turin.
Bah, ma mère, c'est mon manager international aussi.
Ah, c'est vrai.
Mais non, pas du tout. Merci, Madame Kalman, aurait
dit
ma maman.
Rien, Nico.
Voilà, c'est la vôtre qui parle comme ça. Voilà.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy.
Oui, bonjour Nikos, l'Europe n'arrive pas à nommer ses dirigeants, c'est pathétique et vous allez l'entendre, ça met Emmanuel Macron très 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 en colère.
Vous nous direz pourquoi. Axel de Tarlet, on va parler d'Amazon.
Oui, qui achète ses propres avions pour nous livrer toujours plus vite, ça commence à devenir effrayant.
Apathy Tarlet dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Les dirigeants européens se retrouveront tout à l'heure à 11h à Bruxelles, car ils ont échoué hier à nommer des responsables à la tête des principales institutions européennes. Une impuissance qui a provoquer la colère du président de la République, Jean-Michel Apathy.
Absolument, c'est assez rare, je vous propose, Nikos, c'était hier après-midi à Bruxelles, assez rare d'entendre Emmanuel Macron aussi cinglant.
Je pense aussi que dans la durée, nous devons tirer toutes les conséquences d'un tel échec. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse.
Là, on le sent en pétard. Là,
hein. Ouais, la réunionnite...
Il est vraiment pas content, hein, passer autant de temps pour n'arriver à rien. Alors c'est vrai que ne pas arriver à nommer pour une institution, quelle qu'elle soit, pour un groupe humain, quel qu'il soit, ne pas arriver à nommer ses dirigeants, c'est un aveu d'impuissance terrible et une perte de crédibilité. Là-dessus, Emmanuel Macron a raison. Mais une fois qu'on a fait le constat, comment est-ce qu'on explique cette situation? En fait, il y a plusieurs éléments qui s'agrègent.
Dites-nous.
Pour expliquer la crise européenne. D'abord, il y a un changement d'axe. Les pays de l'Est, alors c'est la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, ne sont plus comme elles l'étaient avant, soumises aux diktats ouest-européens. Mmh. Et les intérêts nationaux de ces pays ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux des fondateurs de l'Europe. Donc, il y a des difficultés à trouver des consensus, et là-dessus, l'Italie, qui est membre fondateur de l'Europe, fait aussi valoir la question migratoire, Matteo Salvini, etc., fait aussi valoir des intérêts particuliers sur l'intérêt général, et ça, ça bloque l'Europe. Il n'y a plus de consensus possible en Europe. L'Europe, c'était des équilibres subtils, il y a des acteurs qui ne jouent plus le jeu, ça paralyse l'Europe. D'autre part, Il faut le dire simplement, Angela Merkel est en bout de course, elle n'a plus le leadership qu'elle avait avant, notamment sur la droite européenne, donc y compris les pays de l'Est, et Emmanuel Macron a plutôt échoué dans sa tentative de la remplacer en termes de dirigeant européen très fort. Donc, plus de moteur franco-allemand, quand il n'y a plus de moteur dans une voiture, la voiture ne va pas très loin. Mmh. Et puis, il y a un troisième facteur qui joue, il n'y a plus de personnalité européenne sur la scène. Il y a 30 ans, quand on cherchait un président de Commission européenne, il y avait Jacques Delors. Il y a 10 ans, quand on cherchait un président de Commission européenne, il y avait Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Aujourd'hui, il n'y a personne. Et donc, quand on agrège tous ces éléments, on a une Europe en panne, on a une Europe en crise. Le symbole de cette crise, c'est le Sea-Watch, le bateau qui, avec 40 migrants clandestins, a accosté de force sur l'île de Lampedusa, l'île italienne. La commandante du bateau est allemande. Le gouvernement italien veut traduire cette allemande devant les tribunaux. Elle risque 10 ans de prison. Le gouvernement allemand est fou de rage. Le porte-parole d'Angela Merkel a dit « Il est inenvisageable qu'un Européen puisse aller en prison pour avoir mené une mission humanitaire. » Il explique que les valeurs de l'Europe l'interdisent. On aimerait au passage que des Français s'expriment comme les Allemands sur cette question. Et on voit bien la crise de l'Europe. Il n'y a pas, si je puis me permettre, que le climat qui est déréglé en Europe aujourd'hui.
Crise politique et peut-être aujourd'hui crise identitaire.
Oui, absolument.
De quelle Europe
ça sert l'Europe et c'est quoi l'Europe ?
Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé. Toujours plus vite, toujours plus loin, ils se posent moins de questions chez Amazon, puisqu'ils viennent de constituer leur propre flotte d'avions pour satisfaire le roi consommateur.
Eh bien oui, en tant que consommateur, nous sommes toujours plus exigeants. On veut être livré le plus vite possible, mais surtout, on ne veut pas payer pour la livraison. Les frais de livraison hérissent totalement le consommateur qui a l'impression de payer pour rien. Donc, le client étant roi, eh bien Amazon offre royalement les frais de livraison. Sauf que derrière, il faut que la logistique suive avec, donc on l'a compris, des prix les plus bas possibles. Bah justement, la logistique commence à tiquer. Et aux États-Unis, vous avez FedEx qui a fait ses comptes et qui ne veut plus travailler pour Amazon.
Pourquoi ?
Trop de contraintes, payer, on l'a compris, au lance-pierre. Donc FedEx a fait ses comptes, nous on ne gagne pas d'argent avec Amazon, donc ils ont dit stop. Eh bien, qu'à cela ne tienne, puisque FedEx ne veut plus travailler pour Amazon, Amazon livrera lui-même ses clients et toujours gratuitement. Donc le géant de Seattle est en train de développer toute une chaîne logistique partout dans le monde, hein, y compris en France, avec ses propres camions Amazon, ses propres bateaux Amazon et effectivement ses propres avions Amazon. Donc Amazon vient d'annoncer qu'il a acheté 15 avions Boeing cargo supplémentaires, ce qui porte sa flotte d'avions aujourd'hui à 65 appareils. Donc vous voyez, plus besoin de passer par la poste. Amazon fait tout seul, de la production au hangar à la livraison. On assiste bien à la naissance d'empires intégrés, capables de tout faire et qui bientôt d'ailleurs auront même bientôt leur propre monnaie. On le voit avec Facebook, avec son libre envoyé. Oui. Et tout cela, bien sûr, au service du roi consommateur.
Oui, à un moment peut-être où le consommateur veut moins consommer et mieux consommer.
Oui. Alors ça, c'est très paradoxal. Effectivement, on dit qu'on veut moins consommer, qu'on veut consommer local. Ben, Amazon, c'est tout le contraire. Amazon, c'est consommer toujours plus de babioles qui viennent des quatre coins de la planète, puisque Amazon, sur sa plateforme, nous met en relation avec tous les vendeurs du monde entier pour nous proposer le moins cher. Et le tout, bien sûr, vous l'avez bien compris, livré gratuitement. Et bien, résultat, ça fait toujours plus de cargos qui sillonnent les océans remplis de marchandises plus ou moins inutiles. C'est pas très développement durable, mais avouons-le, nous sommes tous coupables quand derrière notre écran, on clique frénétiquement sur « Ajouter au panier », ravi de voir « Livraison offerte ».
Est-ce la névrose du consommateur du 21e siècle ?
Ah oui, là on est névrosé de ce point de vue-là. Hein.
Merci pour la babiole. Le Zoom Echo était présenté par Axel de Tarlé.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Les festivals, la politique culturelle du gouvernement, l'état du PS, dans un instant, Jack Lang est mon invité, à tout de suite.
Il est 7h44. Il est 7h45, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nicolas Aliagas.
Des orages et des vents violents ont causé de gros dégâts et des coupures d'électricité dans 6 départements du Sud-Est. Une quinzaine de personnes ont été blessées. La circulation des trains interrompue entre Valence et Grenoble. 100 000 foyers privés d'électricité ce matin. 5 départements sont en alerte orage. Le groupe Conforama prévoit de supprimer 1900 postes en France en 2020. La direction a annoncé hier la fermeture de 32 magasins de l'enseigne et des 10 boutiques Maison Dépôt. Les syndicats hospitaliers et le collectif de soignants Interurgences organisent aujourd'hui à Paris une nouvelle manifestation malgré des avancées depuis mi-mars, début du mouvement national de la grève.
Europe 1. En pleine Coupe du monde féminine de football, l'Institut du monde arabe tient une exposition sur la révolution du ballon rond. Nikos, vous recevez pour en parler ce matin son président Jack Lang.
Bonjour Jacques Lang.
Bonjour.
Avant de parler de l'exposition et de culture, un mot sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Les 28 incapables de trouver un patron pour la Commission et pour les autres institutions. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe aujourd'hui ?
Je crois qu'Emmanuel Macron a eu raison de pousser un coup de gueule. Ça suffit. Ça suffit de ne pas appliquer le traité, tout simplement. Car le traité, j'y ai travaillé avec d'autres il y a quelques années, permet en ces matières d'adopter une décision à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité. Donc le moment est venu d'imposer une vision de sagesse et d'ambition pour l'Europe. Et j'espère qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, la chancelière allemande et d'autres dirigeants sages et raisonnables réussiront à choisir une bonne équipe pour l'Europe. Il n'y a aucune raison que des pays comme le pays de M. Orban mettent dans les roues, alors qu'eux-mêmes, ils bénéficient de crédits de soutien importants de l'Europe. Donc, je crois qu'il a eu raison, il faut dire, ça suffit, maintenant, on décide.
Parlons culture, c'est l'été, c'est la pleine saison des festivals. Jacques Lang, il y a plus de 3000 festivals en France. Elle se porte bien la culture chez nous ?
Il y a une vitalité culturelle extraordinaire. On est déchiré entre les villes, les villages, partout à travers le pays. Il y a une efflorescence, une effervescence inouïe.
À Nantes, vous avez vu que pendant la fête de la musique, des policiers ont chargé un groupe de jeunes. Certains sont tombés dans la Loire. Il y a un garçon d'une vingtaine d'années qui est toujours porté disparu. Une enquête est en cours. C'est plus compliqué qu'avant de garantir la sécurité ?
Non, mais écoutez, dans ce cas-là, c'est quand même une histoire de fou. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais que des policiers soient invités à 4 heures du matin, il fait nuit, environner des jeunes un peu allumés, avec des fumées de gaz lacrymogène, au bord d'un fleuve. Mais enfin, un enfant ne procéderait pas à une telle bêtise. Donc, et en plus, je suis d'autant plus furieux, si j'ose dire, que en 40 ans, la fête de la musique n'a jamais connu aucune violence. Aucune violence. C'est un événement que les Français se sont approprié. C'est leur événement. C'est un moment de grâce, c'est un moment d'exception, c'est un moment où chacun respecte chacun. Franchement, je ne sais pas qui a décidé sur place, mais c'est inadmissible. Est-ce qu'en plus, la mort d'un jeune homme, si c'est avéré, est inacceptable. La fête de la musique, c'est un moment de paix, d'amour, de tendresse, de rencontre.
On peut encore avoir des moments comme ça dans un contexte différent. Il y a eu les gilets jaunes, il y a des risques d'attentats. On peut encore, grâce à la culture, mettre tout le monde d'accord et réunir tout le monde.
Bien sûr, en tout cas, je répète, la fête de la musique est un moment où chacun respecte chacun, où la tolérance règne. Et pendant 30 ou 40 ans, ça a toujours été un événement hors du temps, si j'ose dire, qui permet aux gens de se retrouver, de se réunir. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Bon, il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas contre la police, loin de là. Je pense qu'elle a un boulot terrible à faire, parfois. Mais l'autre jour, je voyais sur le pont Sully, à quelques pas de l'Institut du Monde Arabe, des jeunes qui manifestaient pour le climat. J'ai entendu dire qu'ensuite on les a
les images ont fait le tour. Ils ont été gazés.
Ce n'est pas compréhensible.
Pourquoi ?
Ben d'ailleurs, je crois savoir que le ministre lui-même a fait une enquête.
Le pass culture se met progressivement en place. Là où il est actif, un jeune, l'année de ses 18 ans, peut demander une enveloppe de 500 euros à dépenser pour des spectacles, des livres, du numérique. C'était un engagement du président de la République. Ça suffit ou pas ? Vous l'avez un peu critiqué, le pass culture ?
Oui, mais enfin bon, c'est en expérimentation pour l'instant. Mmh. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement a eu raison d'éviter une application brutale qui serait traduite par des excès, un encouragement, je dirais, à la culture de consommation passive plutôt qu'à l'éveil intellectuel et artistique.
La culture peut encore jouer un rôle aujourd'hui à l'heure où les réseaux sociaux laissent libérer des paroles haineuses, à l'heure où il y a pas mal de divisions entre les uns et les autres, on cherche souvent des boucs émissaires. La culture, au-delà de ce qui est idéal...
Réalité.
Ouais, racontez-moi comment.
Quand vous dites elle joue un rôle partout, pas seulement en France, mais beaucoup en France, dans l'ensemble du pays. C'est une source de bonheur collectif, c'est une source d'élévation de l'esprit. Pour les enfants, c'est une source aussi d'appréhension des grands apprentissages fondamentaux. Alors il faut faire plus, il faut faire mieux encore. Mais voilà, et je crois que chacun fait effort. Hier, nous avons le ministre de la Culture, Yester, m'a convié à inaugurer auprès de lui, l'École nationale de la photographie que nous avions créée avec François Mitterrand en 1982. C'est une des c'est une des plus grandes écoles de photographie du monde. Dans le même temps, on va célébrer dans quelques jours le 30e anniversaire, pardon, pour les anniversaires, de l'inauguration par François Mitterrand de l'Opéra Bastille, que, pour lequel je me suis battu qui aujourd'hui fait que on l'oublie que Paris est aujourd'hui la capitale mondiale de l'art lyrique et chorégraphique. Mmh. Je ne veux pas faire les gros bras.
Pardonnez-moi, vous n'avez jamais décroché, en fait.
Mais la
depuis que vous étiez ministre de la Culture, on a l'impression que vous êtes encore ministre de la Culture à vie.
Non, pas du tout. Mais la passion, l'amour, la tendresse, l'émerveillement. Émerveillons-nous des beautés, des splendeurs, des grandeurs de ce pays où nous vivons. Protestons aussi quand il y a des injustices, et il y en a, ou des violences, et il y en a.
Un mot, depuis 2013, vous êtes le président de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Jusqu'au 21 juillet, s'y tient une exposition sur la révolution du ballon rond. C'est surprenant de parler foot dans un musée ?
Pas du tout. Je veux dire, c'est un phénomène de société, et notamment dans les pays arabes, de Zidane Mbappé. Ouais. C'est un événement extraordinaire qui raconte mille et une histoires, mille et une facettes du foot comme à la fois ciment de la société, parce que c'est un autre aspect, comme la culture qui contribue à une cohésion, parfois il y a des bagarres aussi, et à contribuer à faire naître un nouvel art de vivre, et parfois c'est source d'émancipation et de liberté pour des peuples qui se trouvent momentanément écrasés. Et cette exposition Foot et monde arabe est passionnante, et elle raconte comment aujourd'hui encore le foot est source de liberté, de bonheur dans les pays arabes et aussi en France.
Dans l'Institut du Monde Arabe à Paris, vous disiez qu'il y a des bagarres parfois dans le foot, il y en a aussi dans la politique, il y en a aussi au PS. Vous êtes un observateur actif de l'actualité politique ?
Comme vous le dites, observateur actif, c'est-à-dire j'observe, mais non, je n'agis pas beaucoup.
Vous intéresse plus ou vous voulez vous préserver ?
Pas du tout. Moi, je reste profondément militant, profondément habité par mon idéal.
Toujours socialiste ?
Toujours socialiste. Socialisme, c'est pas nécessairement un parti, c'est aussi une conception de la société, des rapports humains. Oui, je crois toujours à la justice, je crois toujours à la liberté, je crois toujours qu'un gouvernement doit métamorphoser, transformer, changer, bâtir, construire, voilà. Et donc, mon cœur bat toujours à gauche, très fortement.
L'état du PS, ça vous désole, ça vous inspire
Oui, ça m'attriste un peu, mais je sais que l'histoire est longue et que viendra le moment où il réussira à se reconstruire autour d'une équipe ou d'un leader, nous verrons bien. Et puis par ailleurs, je souhaite que le gouvernement actuel, que le président actuel Emmanuel Macron puisse faire le maximum de réformes qui aillent dans le sens de la justice sociale et du progrès.
Donc vous soutenez Macron, et pour la mairie...
Je n'ai pas dit que je soutenais à fond, je le soutiens sur des sujets précis.
Pas à fond, mais de temps en temps sur des choses qui vous
et notamment
qui vous
sur l'Europe, il faut absolument aujourd'hui que l'on se dote de dirigeants européens, et encore une fois, je veux dire bravo au président de la République d'avoir poussé un coup de gueule.
Et vous, la politique ?
Qu'est-ce que vous dites de la politique ?
Quand on est homme politique un jour, on est homme politique toujours. Refaire de la politique au sens actif, vous présenter à une élection.
Nous sommes tous comme vous êtes vous-même. C'est une de vos charmes. Vous êtes gréco-français.
Oui,
nous sommes tous. Les grands Grecs nous l'ont appris. Nous sommes tous des animaux politiques. Nous sommes tous habités par la politique, par le goût de la cité.
Aristote.
Aristote, donc par conséquent, Aristote est parmi nous.
Vous soutenez Anne Hidalgo pour la mairie de Paris ?
Oh, je ne vais pas me mêler des débats, enfin disons qu'en tout cas, je soutiens ceux qui sont attaqués, parfois injustement attaqués. Mm. Oui. Bon, par ailleurs, elle fait son travail, et puis en même temps, laissons le débat s'ouvrir, il y aura des idées.
On a le temps, vous voulez dire.
Il n'y a pas de raison que je me mêle directement de la... Si, il y a un point sur lequel je veux me bagarrer, mais c'est très minime pour vous. Elle m'a répondu très gentiment, c'est sur la survie d'un endroit unique en France, s'appelle La Concrète, un lieu où la musique techno se déroule nuit et jour comme à Berlin, et la barge sur laquelle ces personnes sont installées risque de disparaître. Et Anne m'a répondu, je m'en occupe, alors je vais apprécier de quelle manière, avec quelle efficacité, elle peut sauver cette expérience culturelle unique sur la scène.
Même le 2 juillet 2019, Jack Lang défend la musique techno sur Europe 1. Merci d'avoir été notre invité ce matin.
Et merci de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas. On va parler tennis et peut-être même musique.
À tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h56. Europe 1, Europe 1.
Il est 7h57, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver la petite histoire du jour.
Jean-Philippe Ballas, du tennis, avec un exploit hier à Wimbledon, Venus Williams s'éliminer par une gamine de 15 ans.
Surtout, ne pas y penser, éviter le vertige, ne pas se dire qu'on est là, sur le central, face à l'une des sœurs Williams, idole absolue. Bienvenue dans la tête de Cori Gauff, ses amis l'appellent Coco. Je vous présente la plus jeune participante de l'histoire de Wimbledon. Une américaine de 15 ans et 3 mois, qui la veille du tournoi passait encore un examen de sciences à l'école, oui, avec des profs qui ne savent même pas qu'elle est joueuse professionnelle. C'est dire le monde qui la sépare de Venus Williams. 39 ans, c'est pas compliqué, Coco était encore en couche-culotte que Venus avait déjà remporté 4 grands tournois, dont 2 ici, sur le gazon. Et pourtant, il est en train de se passer un truc de dingue, les amis. Cori Gauff mène au score, oui, une manche à rien, 5 jeux à 4. Elle est au service, balle de match. Vous entendez, le central est debout, Cori Gauff est à genoux, elle vient de battre Venus Williams. La petite américaine est en pleurs, elle serre la main de son adversaire et c'est comme si elle ne voulait plus la lâcher le long du filet. Oui, elle qui n'a jamais osé lui adresser la parole quand elle l'a croisée sur le circuit, bah maintenant elle peut enfin lui dire qu'elle est un exemple et qu'elle ne serait pas là sans elle. Venus Williams la regarde, lui sourit, lui souhaite bonne chance pour la suite et voici comment une parfaite inconnue fait une entrée fracassante sur la scène mondiale. Alors tout à l'heure, j'ai jeté un œil sur le compte Instagram de Cori Gauff, j'ai vu beaucoup de photos de tennis bien sûr, aussi une gamine simple, souriante, et puis vous savez quoi, visiblement elle est fan d'Ariana Grande, bah oui, comme pas mal de filles de son âge.
On écoute ça chez vous aussi?
M'en parlez pas.
Ma fille aussi.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite Laurent Cabrol, la météo.
Allez, c'est le recul de la canicule, cette canicule s'en va. Oui, c'est l'air frais qui chasse l'air chaud et traduisez, cela signifie que les orages sont là. Et ces orages, malheureusement, sont dangereux, on l'a vu, on le verra encore. Température plus fraîche, certes, mais au prix d'orages spectaculaires. Pour simplifier, je vais vous dire que c'est moitié nord, moitié sud. Moitié nord, du beau temps, et ça sera le cas presque toute la semaine. Moitié sud, un temps très agité, orageux, avec des orages méchants. Et ce sera le temps également toute la semaine. Et à partir de dimanche et lundi, je caricature un peu, nous allons changer totalement de situation, tout le monde sera à l'unisson de la fraîcheur. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi matin. Belle matinée à tous, il est 8h. Et votre matinée à l'info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
C'est un marathonien, David Doucan, évidemment. Le journal de 8h et vous revenez à 8h15 pour interviewer le ministre de l'écologie, François Rugy. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, David.
Le coup dur pour les salariés de Conforama. La direction veut fermer une quarantaine de magasins, supprimer 1900 emplois. La réaction du secrétaire du comité central d'entreprise dans un instant. Après la canicule, les orages. La région Auvergne-Rhône-Alpes durement touchée cette nuit. Jusqu'à 100 000 foyers privés d'électricité. Vigilance orange dans 5 départements pour aujourd'hui. Et puis, la jeunesse hongkongaise défie Pékin. Des manifestants sont entrés de force dans le Parlement. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Reportage de notre correspondant dans ce journal.
Puis à 8h12, l'Iran déroge à l'accord de 2015 et franchit la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. Les explications et l'analyse de notre spécialiste Vincent Hervouet.
Europe 1. 1900 postes supprimés, 32 magasins Conforama en voie d'être fermés, même destin pour 10 boutiques Maison Dépôt, tout cela dès l'année prochaine. Le groupe de bricolage et de décoration a annoncé la mauvaise nouvelle hier au syndicat. Les 9000 salariés s'attendaient à une restructuration, mais pas si brutale. Écoutez Mouloud Amour, secrétaire du comité central d'entreprise de Conforama.
On s'attendait à quelque chose d'assez conséquent. Mais dans un premier temps, déjà, au niveau du timing, pas aussi rapide. On s'attendait effectivement à une restructuration courant février-mars 2020. Et là, on nous l'annonce de manière brutale. Et c'est vraiment un choc quoi, extraordinaire et insupportable. Et les salariés ainsi que les élus sont choqués par l'annonce qui vient d'être faite par la direction générale de Conforama.
Et l'ampleur des suppressions d'emplois et des fermetures de magasins vous surprend aussi?
Ah, complètement. On s'attendait à peut-être quelques fermetures de magasins. Qui ne devait pas dépasser une dizaine, et là on se retrouve avec 32 magasins qui ferment, 1900 postes supprimés en France. C'est un véritable scandale, parce qu'effectivement on s'attendait à une restructuration, mais pas aussi lourde. pas aussi dramatique, pas aussi importante.
Mouloud Amour, le secrétaire du comité central d'entreprise de Conforama, avec Olivier Samin pour Europe 1.
De nombreux dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes hier soir en raison des orages avec vent violent et chute de grêle.
Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Dans ce département, à Doussard, grosse frayeur pour les spectateurs d'un concert de rock. Le toit de la salle des fêtes a été partiellement emporté. La maire de la commune, Michel Lutz, était présente. On l'écoute.
C'était d'une violence qui est difficilement qualifiable. Ce bruit assourdissant, il y a eu un effet en une conjugaison entre un toit s'envole, happé, soufflé par cette tornade, et puis tous les matériaux qui sont là, qui se gorgent très très vite d'eau, et qui ensuite tombent. Le spectacle, je ne vous cache pas, à 1h du matin, 2h du matin, était sur les routes de ma commune, assez apocalyptique. Et on a des arbres qui sont abattus un peu de partout, il y a beaucoup de tuiles qui sont tombées, ça va être terrible de revoir tout ça ce matin, mais les personnes sont toutes sur leurs jambes, des petites égratignures, mais rien. Et ça, sincèrement, c'est un miracle.
Témoignage recueilli par Claudia Bertram. Enfin, en raison des chutes d'arbres, la SNCF a stoppé un TGV Paris-Grenoble en gare de Lyon-Saint-Exupéry. Les voyageurs ont été contraints d'y passer la nuit.
Blocage à Bruxelles, rentrée à Strasbourg.
Oui, le président français a choisi ces mots. Nous donnons une image pas sérieuse de l'Europe. La charge est à la hauteur des divisions au sommet de l'Union. Les dirigeants ont été incapables de trouver un consensus sur les postes clés. Le sommet reprend ce matin à 11h pour une énième tentative. Blocage à Bruxelles, donc, vous le disiez. Mais le calendrier du Parlement de Strasbourg n'attend pas. Les nouveaux députés élus fin mai vont siéger dans l'hémicycle aujourd'hui. Pour la première fois, hier après-midi, chacun d'entre eux est passé au guichet de remise des clés de bureau. Arthur Mbaché y a croisé l'insoumise Leïla Chaïbi.
Et moi, j'ai deux bureaux.
Voilà, vous avez un bureau pour vous et un bureau pour votre assistant.
D'accord, voilà. Ok, super, merci beaucoup.
Merci, monsieur. Bon après-midi. Merci. Au revoir.
Pour le coup, c'est vraiment une arrivée, on débarque. À peine on a eu le temps de commencer à se repérer dans les couloirs de Bruxelles où c'est un gros labyrinthe, que ça y est, faut tout redémarrer à zéro, on arrive de nouveau, oulala, ce grand truc immense. On nous a dit que nos bureaux étaient assez excentrés, parce que c'est vrai que notre groupe, on a perdu pas mal d'élus, donc apparemment on est un peu mis au placard. Après, je sais qu'on a une réunion dans 20 minutes, je suis sûre que forcément ça va commencer à la bourre parce que le temps que tout le monde se repère et trouve la salle.
Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de trouver son bureau ici ou de trouver un accord Bruxelles entre chefs d'État?
Nous, ce qui nous interpelle, c'est que les socialistes s'accordent avec les macronistes alors qu'ils nous ont dit pendant toute la campagne qu'ils étaient contre les propositions qui étaient portées par les macronistes. Mais c'est normal que les gens se disent, mais je comprends pas, en fait j'ai voté pour un tel, mais en fait ils se mettent après tous autour d'une table. Moi je découvre la façon de négocier dans les institutions européennes.
Bonne rentrée.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Leïla Chaïbi, députée européenne insoumise au micro européen d'Arthur Mbaché.
Et le gouvernement fait marche arrière sur la lutte contre les passoires thermiques.
Oui, pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait promis que ces logements mal isolés et énergivores seraient interdits à la location d'ici 2025. Problème, le texte voté vendredi à l'Assemblée nationale n'a pas du tout cette ambition. Il ne prévoit que des incitations pour que les propriétaires engagent des travaux d'isolation. Aucune sanction avant 2028. Les explications de Maud Descamps.
Il n'y aura aucune sanction avant 2028 pour les propriétaires de passoires énergétiques. Ils pourront donc continuer à les louer. C'est en fait le résultat d'un bras de fer au sein même du gouvernement. Deux lignes s'opposaient. L'écologie punitive, défendue par le ministère de la Transition écologique, et la ligne incitative, plutôt du côté du ministère du Logement. C'est donc cette dernière qui l'a emportée. Au gouvernement, certains estimaient qu'il était trop dangereux de cibler les petits propriétaires. On estime que 500 000 logements très énergivores sont détenus par des propriétaires à faible revenu. Anne Bringot du réseau Action Climat regrette ce qu'elle appelle un manque d'ambition.
On est sur une occasion manquée puisque la loi ne prévoit pas grand-chose à part une obligation d'indiquer non-conformité à partir de 2028. Ce qui est important, c'est profiter du changement de propriétaire ou d'un changement de locataire pour faire des travaux et donc engager dès que possible une interdiction de location quand on change de locataire.
Le gouvernement mise plutôt sur une simplification des aides pour inciter les propriétaires à engager des travaux avant 2028.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Et bien sûr, j'interrogerai tout à l'heure à 8h15 le ministre de l'écologie à ce sujet, François de Rugy. Le ministre de l'Éducation nationale a promis que chacun aura ses résultats du bac en temps et en heure. Ce vendredi, Jean-Michel Blanquer réagissait à la menace de grève de certains correcteurs dans plusieurs académies. Des enseignants ont voté une rétention des notes pour inciter le ministre à rouvrir les négociations sur les réformes du
du lycée et du baccalauréat.
Europe 1.
À suivre dans le journal, l'escalade à Hong Kong. La jeunesse a envahi le Parlement hier. C'est le gouvernement pro-Pékin et donc la Chine elle-même qui sont défiés. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La matinale avec David Doucan pour journal de 8h, direction Hong Kong, où la jeunesse étudiante est en révolte, David.
Oui, elle avait déjà obtenu la suspension du projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale, mais les protestataires ne s'en contentent pas. C'est une soif de liberté, la volonté de défendre l'autonomie vis-à-vis de Pékin, qui accroît sa mainmise sur l'île depuis 2013 et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Hier, les manifestants ont carrément envahi le Parlement et ont déployé l'ancien drapeau colonial. Écoutez, le reportage du correspondant d'Europe 1 à Hong Kong, Stéphane Lafoire.
Les coups ont finalement eu raison des vitres blindées du Parlement, entraînant la liesse de la foule. Après des heures à s'acharner sur l'enceinte officielle, les manifestants ont enfin pénétré à l'intérieur du Legco en début de soirée. Un geste fort et symbolique pour la jeunesse hongkongaise qui cherche à tout prix à se faire entendre.
Nous devons nous en prendre à ces institutions politiques pour faire passer nos demandes de changement au gouvernement et leur mettre la pression. Nous avons déjà sacrifié 3 jeunes Hongkongais, donc nous ne pouvons plus attendre. C'est un pas en avant, mais si le gouvernement ne nous répond pas, nous ne nous arrêterons pas à cette étape.
À l'intérieur, le chaos règne tandis que les manifestants s'organisent pour tenter d'ériger des barricades. Le matériel informatique, les meubles, rien n'échappe à la colère des étudiants. Cette prise du Parlement est un réel tour de force.
C'est la dernière chose que l'on a envie de faire. Personne ne veut de la violence, mais c'est l'un des seuls moyens pour nous d'obtenir une réponse.
À minuit, la police est finalement intervenue à coups de gaz lacrymogène, ordonnant aux manifestants de quitter le Parlement et le quartier Admiralty. À Hong Kong, Stéphane Laforêt, Europe 1.
Mais le gouvernement central chinois vient de réagir à ces événements en condamnant fermement le saccage du Parlement local de Hong Kong. Ils sont aujourd'hui 21 000 dans notre pays. Ils seront 10 fois plus nombreux, 200 000. Dans 40 ans, je vous parle des centenaires. La France est le pays d'Europe où le plus grand nombre de nos aînés passe ce cap. Alors comment cela s'explique-t-il, Ève Roger ?
5 centenaires sur 6 sont des femmes, nées pendant ou juste après la guerre de 14-18. Elles ont connu 15 présidents de la République et presque autant de dévaluations. Elles avaient 26 ans quand la sécurité sociale a été créée en 1945 et pour les spécialistes, c'est grâce à cette organisation typiquement française des soins, universelle et gratuite, qu'elles sont plus nombreuses ici qu'en Espagne ou en Allemagne. Elles s'entretiennent aussi un peu de marche, un peu d'exercice. Elles suivent l'actualité, regardent le JT et surtout continuent à profiter des plaisirs de la vie, comme Paulette Lerouzeau-Grève, dite Madame Lerouzeau, dans sa maison de retraite Corian, en région parisienne.
C'est d'écouter les enfants et les amis, parce que ça compte les amis. Ça se compte souvent sur les doigts d'une main. J'aime la musique. J'aime Mozart, j'aime Beethoven. Et puis on fredonne, même si on n'a pas une voix extraordinaire. Charles Trenet, je chante un jour et matin, je chante sur mon chemin. D'abord, on a le cœur gai. Et puis, on ne dit pas du mal du voisin.
Mais n'allez pas croire que toutes les centenaires vivent en maison de retraite comme Paulette. Une sur deux vit encore chez elle. Avec de l'aide, bien entendu, ça veut dire quand même qu'elles ont encore des ressources.
Le reportage d'Ève Roger du service Société d'Europe 1.
C'était le journal de 8h avec David Doucan. Merci David et à demain.
La matinale d'Europe 1.
À tout à l'heure pour les
Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale comme chaque matin avec Vincent Hervouette, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Nikos. Ça va
bien. Content de vous retrouver. L'Iran a dépassé de quelques kilos le seuil de 300 kilos d'uranium enrichi qui est autorisé par l'accord nucléaire. En fait, il l'a fait délibérément et Israël réclame des sanctions immédiates.
C'est un geste que les Iraniens avaient planifié il y a un mois. Ils le justifient avec des arguties juridiques. Il y a 2 codicilles dans l'accord de 2015. On dirait qu'ils sont là pour ça. Ils autorisent à s'affranchir temporairement de certaines dispositions du traité si la partie en face ne le respecte pas. Mmh. Et c'est le cas. Les sanctions n'ont pas été levées. Alors, ces kilos d'uranium que brandissent les Iraniens, c'est une provocation calculée, comme les tankers attaqués dans le Golfe ou le drone américain abattu le mois dernier. Les mollahs sont menacés de faillite, ils donnent des coups de pied dans la porte, ils voudraient négocier, mais les Américains les tiennent à la gorge, Donald Trump serre de plus en plus, et le monde alentour reste inerte, sauf les voisins qui applaudissent.
L'Iran n'est pas la Corée du Nord.
Alors on peut rêver, imaginez Air Force One qui atterrit à Ispahan, le président Rouhani accueille Donald Trump avec des roses et des nougats, spécialité locale. Les deux hommes se serrent la main, sourire aux lèvres, les caméras tournent, les reporters se retournent, une guerre de 40 ans se termine. Un peu plus tard, l'Américain est reçu par le guide suprême et il tweete qu'il a passé un moment magnifique, très très chaleureux. Alors vous imaginez, eh bien... Réveillez-vous, oui. Ça n'arrivera pas.
Ben voilà.
La différence entre la Corée et l'Iran, c'est que les Nord-Coréens ont la bombe. Ils l'ont testée pour que tout le monde le sache. Ils ont aussi les lanceurs. Ils en ont tiré au-dessus du Japon, qui pourrait même atteindre la Californie. Et les sanctions ont échoué. L'Occident a perdu. Game over. Il ne reste plus qu'à négocier avec l'État voyou et son tyran que Donald Trump prétend avoir apprivoisé. Alors, il y a de quoi faire enrager, évidemment, les dirigeants iraniens. Ils ont, eux, les éléments épars du puzzle nucléaire et il ne leur sert à rien. C'est leur faute parce que depuis 40 ans, ils ont tout sacrifié à leur rêve de puissance. Obstinément, ils ont renforcé leur capacité de nuisance. L'Irak en a fait les frais, la guerre comme à Verdun. Au Liban, le terrorisme. En Syrie, la guerre civile que les miliciens chiites viennent de gagner, au Yémen la sécession des Houthis, et tous se sont inclinés devant Téhéran. Israël aussi a subi le harcèlement iranien au sud Liban, en Galilée, à Gaza. Alors l'accord nucléaire de 2015 sanctuarisait ce désordre établi. En le dénonçant, Donald Trump a dynamité le statu quo. Les Iraniens menacent de riposter par la fuite en avant, mais ils y vont pas à pas. Hier, les stocks d'uranium, demain les stocks d'eau lourde, après-demain sera le taux d'enrichissement, puis la relance du réacteur d'Arak. Aller à la guerre à reculons, à vrai dire, c'est un peu l'avoir déjà perdu.
Vincent Hervouet pour l'édito international dans la matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
David Doucan, parlez-moi de votre invité ce matin.
Eh bien, je reçois François de Rugy, ministre de l'écologie. C'est pas facile, ministre de l'écologie, parce
pourquoi
que quand il y a de la pollution, c'est de sa faute. Et quand il y a des mesures contraignantes pour, dans la vie quotidienne pour lutter contre la pollution, c'est de sa faute aussi.
À tout de suite, on écoutera avec attention.
Il est 8h18, Nico Saliagas.
David Doucan, votre invité, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, bonjour.
Bonjour François
bonjour.
De Rugy. Toujours plus de croissance, de consommation, des porte-conteneurs qui vont traverser l'Atlantique, plein gaz. Je vous parle de l'accord signé conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. C'est ça la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
Non, ce n'est pas la solution. La solution, elle est dans les engagements conjoints de tous les pays. Et le fait que le Brésil s'engage à respecter l'accord de Paris alors que son président, M. Bolsonaro, qui est entré en fonction au début de l'année, voulait en sortir, ça c'est quelque chose de positif. Et c'est une conséquence indirecte de cette diplomatie du bras de fer, ou en tout cas du rapport de force, que le président de la République française, Emmanuel Macron, a instauré en disant « on ne signe pas d'accords commerciaux avec les États qui sortiraient de l'accord de Paris ». Nous l'appliquons sur les États-Unis d'Amérique, puisque nous avons rompu les négociations commerciales avec les États-Unis d'Amérique.
Ce qui n'empêchera pas l'Union européenne d'aller au bout des négociations. La France n'a pas de pouvoir de veto en la matière.
Non, mais à une époque, vous savez qu'il y avait une logique d'accord commercial global avec les États-Unis d'Amérique, et cette logique a été stoppée.
Sur le Brésil, François de Rugy, vous dites ils acceptent de rester dans l'accord de Paris. On peut rester dans l'accord de Paris en détruisant 400 hectares de forêt amazonienne chaque jour. C'est ce que fait Jair Bolsonaro. En matière de lutte contre les émissions de CO2, la forêt amazonienne est indispensable.
Il s'agit évidemment de rappeler tous les pays, dont le Brésil, à leurs obligations. Quand on signe l'accord de Paris, c'est pas simplement le signer, c'est mettre en œuvre une politique qui permet d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de la forêt amazonienne. D'ailleurs, vous savez que nous, en France, nous avons un morceau de la forêt amazonienne en Guyane. Nous la protégeons. Nous sacrifions un certain nombre d'ailleurs de projets économiques, comme le projet Montagne d'Or, pour protéger la forêt amazonienne. Eh bien, le Brésil doit aussi protéger la forêt amazonienne.
Mais il s'est engagé. Jair Bolsonaro, à arrêter la déforestation.
Ça fait partie du bras de fer.
C'est pas fait.
Et c'est pour ça que l'accord commercial qui a été signé avec l'Union européenne, pour moi, il n'est pas ratifié.
Voilà.
Et il ne sera ratifié que si le Brésil respecte ses engagements. Et par ailleurs, vous le savez, nous allons le décortiquer, cet accord. Et quand je dis nous allons le décortiquer, nous, les ministères les plus concernés, moi, le ministre de l'écologie, mais aussi le ministre de l'agriculture, par ailleurs aussi les parlementaires français et européens. Car je rappelle que cet accord ne peut entrer en vigueur que s'il est ratifié par le Parlement européen. Nous avons des députés européens
nationaux,
exigeants sur le sujet.
Tous les parlements nationaux et le Parlement européen.
Mais en premier rang, le Parlement européen.
Et c'est ce qu'a dit Pascal Canfin, pourtant élu il y a quelques semaines.
sur la liste
La République en Marche.
Président
de la Commission Environnement au Parlement européen et qui aura donc à décortiquer lui aussi cet accord.
C'est un engagement que vous prenez ce matin. Pas de ratification si vous constatez que le Brésil, par exemple, continue la déforestation.
Évidemment.
Vous y engagez.
Nous seulement nous y engageons, mais quand je vous dis nous allons le décortiquer, ça veut dire que tel qu'il a été négocié par la Commission européenne, qui en plus est en fin de mandat, donc il y a un problème de forme aussi, ça moi je le dis clairement, une Commission européenne en toute fin de mandat qui fait cet accord, eh bien évidemment la nouvelle Commission européenne et surtout la nouvelle majorité au Parlement européen aura à décortiquer cet accord avant de le ratifier.
On vous a entendu. Yannick Jadot, le leader d'Europe Écologie Les Verts, vous accuse le gouvernement, pour être plus précis, je le cite, d'être à la fois duplice et indigne sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Duplice et indigne, que lui répondez-vous ?
On avait pensé que M. Jadot avait pris le sens des responsabilités après son score important aux élections. Quand on réunit 13,5% des voix, on a une responsabilité particulière qui est celle d'agir. Pas simplement de parler, pas simplement de dénoncer, de protester, de s'opposer, de contester, celle d'agir. Malheureusement, je vois qu'il retombe dans les travers d'une radicalité des mots. D'ailleurs, et je souhaite que le groupe vert au Parlement européen, dont il fait partie, qui souhaite lui travailler avec une nouvelle majorité dans laquelle nous sommes, dans laquelle il y a un large rassemblement pro-européen qui devra faire plus pour l'écologie, à ce moment-là, qu'on travaille ensemble, qu'on laisse de côté cette surenchère verbale.
Indigne, selon vous, ça relève de l'insulte ?
Bon, en tout cas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on puisse dire, vous n'allez pas assez vite dans tel secteur, il faudrait être plus contraignant. Mais disons-le à ce moment-là, concrètement, et disons-le aux Français ou aux Européens. Si on dit demain, il faut interdire les voitures à essence ou diesel dans toutes les grandes villes et il faut passer à l'électrique ou à l'hybride, bah, il faut le dire concrètement. Il ne faut pas se contenter de dire oh, on ne fait pas assez pour le climat, oh, il faudrait faire plus. Ça, ce sont des déclarations d'intention qui n'ont aucun effet concret.
Je pense que le parti de Yannick Jadot a des propositions, mais parlons-en, allons sur le fond des sujets, parce qu'il y a cette notion de duplicité. En fait, vous êtes en permanence soupçonné d'un double langage, et il y a un texte, le vôtre, qui a été adopté vendredi, concernant ce qu'on appelle les passoires thermiques.
Oui, j'explique. Une loi énergie-climat.
Une loi énergie, à l'intérieur de laquelle il y a le sujet des passoires thermiques. Il faut expliquer à nos auditeurs...
Alors qu'il n'y était pas au départ, c'est une volonté des députés de la majorité d'introduire des dispositions pour l'efficacité énergétique des logements.
Attendez, vous allez répondre, mais il faut que nos auditeurs sachent de quoi nous parlons. Il s'agit de logements mal isolés et qui consomment énormément d'énergie, c'est au-delà de 350 kWh par mètre carré, et donc ça génère énormément de CO2, ces logements-là, ce qu'on appelle les passoires thermiques.
Et le des président, très lourdes en plus.
François de Rugy, le président de la République, alors qu'il était candidat en 2017, avait promis que ces passoires thermiques seraient interdites à la location d'ici 2025. Votre texte ne va pas du tout en ce sens, puisqu'il n'y a aucune sanction pour les propriétaires afin qu'ils fassent des travaux de rénovation avant 2028. Comment pouvez-vous expliquer aux Français que vous luttez réellement contre le réchauffement climatique ?
Vous savez, il y a deux approches. Soit on se fixe une mesure d'interdiction, par exemple, d'ici 10 ans, une dizaine d'années. Et on dit jusque-là, bah, chacun se débrouille, puis rendez-vous en 2025. Et puis si en 2025, on se rend compte que l'objectif n'a pas été atteint, vous savez ce qui se passe en général. On donne un délai supplémentaire. C'est ce qui est fait, par exemple, sur l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées.
Ou sur la réduction du nucléaire.
Et donc, moi, je préfère, et ça a été aussi la volonté des députés de la majorité, de dire, voilà ce que l'on fait maintenant. Et il y aura, en effet, une mesure, en quelque sorte, un peu de voiture-balai dans un délai raisonnable, qui est de l'ordre d'une dizaine d'années, qui là dira de façon contraignante, parce qu'il faudra assumer une part de contrainte sur ce qu'on a appelé l'obligation de rénovation. Plutôt
2028.
Que de créer une interdiction sans moyens et sans aucun plan d'action d'ici 2025 ou 2028, on a préféré dire qu'il y a une obligation de rénovation. Cette obligation de rénovation est inscrite dans la loi et elle se mettra en œuvre en plusieurs phases. Une première phase d'ici 2023, incitation, information, aide. De 2023 à 2028, là, on donne un cadre légal. Toute personne qui achètera un logement ou qui le louera, eh bien, saura si ce logement est conforme ou pas par rapport à la facture de chauffage. Oui. Et ensuite, il y aura en effet des mesures contraignantes qui viendront et qu'on prendra le temps de bâtir. Parce que vous savez, quand on parle de logement, c'est facile de brandir quelque chose. Mais selon que vous habitez à Paris, en plein cœur de Paris, où le logement vaut 10 000 euros le mètre carré, au moyenne, ou si vous habitez une maison dans la banlieue nantaise, ou si vous habitez une maison dans les Ardennes, on sait déjà que le prix du logement n'est pas du tout le
Bien
même. Les moyens pour faire face aux travaux de rénovation ne sont pas les mêmes. Selon que vous êtes en immeuble, dans une copropriété, vous en êtes dans un logement individuel. Et il faut faire face à toutes ces situations. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une motivation supplémentaire pour trouver des solutions adaptées.
Avec précision, mais pardon, promesse non tenue. C'est pas grave ? C'est pas grave ? Le candidat Macron a été très clair.
Il y avait en effet cette idée qui avait été inscrite au programme. Moi d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit définitivement abandonnée. À un moment donné, il faudra donner des droits nouveaux aux locataires. Nous en donnons déjà en leur donnant l'information. C'est totalement nouveau. Hein. Toute personne qui louera un logement aura l'information sur la facture de chauffage, sur l'annonce. Oui. Pareil pour quelqu'un qui achètera. Et puis ensuite, d'avoir un droit vis-à-vis du propriétaire à exiger la réalisation de l'obligation de
travaux. Nous n'avons plus beaucoup de temps et je vous demande de répondre très brièvement, si vous le pouvez. Regrettez-vous votre réaction après l'évacuation, disons musclée, des militants écologistes vendredi dernier sur le pont Sully à Paris? Vous avez dit le temps n'est plus aux manifestations, vous avez justifié ou semblé justifier l'usage des gaz lacrymogènes, alors que le ministre de l'Intérieur lui-même a demandé une enquête qui a depuis été confiée à l'IGPN.
Mais la preuve que nous fonctionnons dans un état de droit, un état républicain, où en effet, même quand les forces de l'ordre interviennent légitimement, eh bien on fait une enquête. C'est tout à fait normal, c'est le bon fonctionnement de notre état. Moi, ce que je regrette surtout, c'est qu'on en arrive à ces crispations, à ces conflits, alors qu'on pourrait marcher main dans la main. Même, je veux dire, c'est des militants assez radicaux sur le climat. Bon, ils sont pour des mesures très fortes, très rapides. C'est leur droit. Et moi, je suis pour quelque chose de plus progressif, de plus acceptable par les Français. Mais ils pourraient aller voir des gens, aller voir des automobilistes en leur disant « Bah voilà, vous pourriez changer de voiture, vous pourriez passer à la voiture électrique, vous pourriez passer à la voiture hybride, vous pensez que c'est trop cher ? Bah non, on va vous faire la démonstration. » Je pense que ce serait plus utile que d'aller bloquer un pont une demi-journée.
François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, merci à vous d'avoir été mon invité ce matin.
David Doucan pour l'interview politique de la matinale.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et l'essentiel de l'info. 8h30, la revue de presse de David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. On vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 8h28. La météo tout de suite, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, les orages, attention.
Oui, très attention. Alors, je vais séparer la France en deux. Comme cela, ce sera, disons, la tonalité des jours à venir. Chers amis, vous saurez à peu près où vous vous situez. Pas aujourd'hui à peu près, aujourd'hui c'est précis. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Picardie Nord, Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, région parisienne, Berry et Bourgogne. Si j'ai cité votre région, vous êtes forcément sous le soleil et vous serez sous le soleil tout au long de la journée. Maintenant, les régions où ça va s'agiter, Poitou-Charentes, Aquitaine, Béarn, Limousin, Midi-Pyrénées, avec à la clé des orages qui vont s'étaler dans l'après-midi sur tout le massif central, la région Rhône-Alpes et la vallée du Rhône. Et ces orages seront très méchants sur Languedoc-le-Roussillon, également Aveyron, Hérault, Cévennes, autant de départements ou de secteurs, le delta du Rhône, qui seront vraiment sous une pluie d'orage, sans exagérer. En ce qui concerne les températures, 19 à Cherbourg, 21 à Boulogne-sur-Mer, 23 à Biarritz, vous voyez que c'est vraiment très respirable. 24 à Lille, 26 à Langres et Paris, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Cognac, Dijon, Nantes, Nancy, Strasbourg, 29 à Toulouse et 31 à Lyon. Nous allons quand même jusqu'à 38 à Nîmes, c'est l'exception.
38 à Nîmes, encore, il fait toujours chaud dans le Gard. Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Le plan de restructuration chez Conforama présenté ce matin au comité d'entreprise, 1900 postes doivent être supprimés et 32 magasins fermés. Après 3 mois de grève, manifestation nationale ce matin à Paris pour les personnels des urgences. Ils demandent toujours plus de moyens et veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Les 28 se retrouvent ce matin encore à Bruxelles. Hier, malgré 18 heures de négociations interminables, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le casting de leur nouvelle équipe dirigeante. Et puis un mot de tennis à Wimbledon, exploit pour la toute jeune joueuse américaine Cori Gauff. À 15 ans, elle a sorti Venus Williams en 2-7 et elle s'est qualifiée pour le deuxième tour.
Europe 1. Il est 8h32, Nikos. C'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour mon cher David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une ce matin comme un parfum de vacances.
Eh oui, ça sent les vacances et ça sent la vacance. Les vacances, on les devine en contemplant la paire de fesses qui fait sobrement la une du courrier Picard. Les naturistes veulent rester sur la plage, titre le quotidien régional qui décrit la fronde de 3 associations naturistes contre un arrêté municipal interdisant le nudisme sur les plages de la commune de Quin.
Textile.
Les vacances font aussi la une du Parisien aujourd'hui en France qui s'inquiète Juliette, du parcours du combattant des touristes à Paris. Propreté, travaux, sécurité, les guides tirent la sonnette d'alarme. Ça sent encore les vacances à l'italienne pour Adrien Rabiot sur sa Vespa en une de l'équipe en partance du PSG pour la Juventus de Turin. Vacances toujours pour Adil Rami, déjà congédié par Pamela Anderson et qui pourrait l'être par l'Olympique de Marseille. Et puis ça sent la vacance, vacances du pouvoir au sommet, vous en parliez à l'instant, au sommet de l'Europe, incapable de se trouver des chefs.
Allez, on va commencer justement avec l'Europe en panne de casting.
Allô l'Europe, il y a quelqu'un ? S'amuse Allô Gilles de Bernardi dans le Dauphiné. L'Europe n'a plus de patron, voilà. C'est la sentence de Bruno Dive dans Sud-Ouest. Ce sont les petits pays et les forces extrémistes qui font la loi, soit par défaut, soit parce qu'ils ont su entre eux nouer des alliances. Rien de surprenant pour Jean-Michel Bretonnier qui pointe ses logiques politiques cohérentes au niveau européen mais qui entre en conflit avec des intérêts nationaux. Et dans le journal de Saône-et-Loire, Patrick Chabanet tire les premières leçons de cette incapacité des Européens à se trouver des chefs. Angela Merkel est affaiblie et ne s'impose pas dans son propre camp, tandis qu'Emmanuel Macron a du mal à prendre le leadership de l'Union Européenne, comme c'était son ambition en 2017. Mais il y voit quand même un bien, c'est l'union dans la désunion. Personne ne menace de quitter la famille comme le font les Britanniques. On se console comme on peut.
L'Europe en surchauffe et Paris qui risque le surtourisme.
Le surtourisme, c'est le mot employé par le Parisien aujourd'hui en France pour résumer l'inquiétude des guides de la ville face aux galères qui attendent les 50 millions de visiteurs qui se pressent chaque année à Paris et dans sa région. C'est Rosa Cusson, guide touristique à Paris depuis 20 ans, qui résume le mieux la situation sur le terrain. Quand vous avez derrière vous un groupe de 40 personnes, avec des enfants ou des personnes âgées, votre souci c'est de les déplacer en toute sécurité, sans qu'ils se fassent arracher un sac, de rattraper les heures perdues en car dans les embouteillages, mais aussi de leur trouver des places pour la Tour Eiffel ou le Louvre, sans faire des heures de queue, et puis aussi de leur dénicher des toilettes. Tout est dit ou presque, mais on lira à côté de ces récriminations la réponse du premier adjoint à la ville de Paris qui explique en substance que la ville fait ce qu'elle peut. Quant aux toilettes, voilà ce qu'il en dit, j'ouvre les guillemets. L'accès aux toilettes n'est pas un droit absolu du tourisme de masse, on fait ce qu'on peut. On serait tenté de lui répondre que les touristes aussi font ce qu'ils peuvent et là où ils peuvent. Et puisqu'on est presque en vacances, on lira dans Le Monde ce papier sur les camps capitalistes que les Américains organisent pour les 14-17 ans, organisés par le géant informatique SAP. Ça se passe à Miami, au 7e étage d'un building climatisé, une quinzaine d'ados, au lieu d'être à la plage ou en colonie, ont une semaine pour apprendre les bases de la création d'entreprise, préparer un projet avec un business plan et surtout avoir une idée. Et ils en ont des idées, des baskets aux semelles renouvelables, une application pour retrouver ses clés et son portable, un maillot de bain en plastique recyclable pour lutter contre la pollution des océans, un robot pour dialoguer quand on a des idées noires. Peu importe l'idée, l'important c'est de se lancer. Et bien sûr, à la fin de la semaine, on présente son projet devant tout le monde, même si on est timide. Le capitalisme américain, il a bien changé. Et les salariés français méditeront l'exemple de ces jeunes gens qui apprennent la gestion en vacances, quand les Français, eux, selon le Parisien aujourd'hui en France, seraient tentés de se préparer aux vacances pendant qu'ils travaillent. Selon une étude menée par l'agence d'intérim CAPA, 51% des Français bossent beaucoup moins à l'approche des congés. Et la palme revient à Nikos, non pardon, à Ludovic, chargé d'études marketing, qui pose une journée de RTT rien que pour faire ses valises. Vous vous rendez compte ? Poser une journée de RTT rien que pour faire les valises, décidément en France, les congés c'est une affaire de pro.
RTT, je connais pas. C'était la revue de presse de David Abiker. Merci cher ami.
Et il est 8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. Journal avec Jérôme Lacroix.
Bonjour. Nico Saliagas sur Europe 1.
Comment ça va ?
Mais très bien, vous ?
Vous êtes en forme ?
Bah oui, plutôt en forme, oui.
On y va ?
Bah allez, c'est parti.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Jérôme Lacroix au sommaire ce matin.
Qui fera chuter les surpuissantes américaines ? Les Anglaises en sont-elles capables ? Angleterre-États-Unis, première demi-finale ce soir à Lyon. Rencontre dans un contexte sulfureux ces dernières heures. Des espions américains auraient rôdé autour du camp de base anglais, figurez-vous. Un match qui doit porter encore un peu plus haut. Le foot au féminin, on va battre ce soir des records d'audimat et d'affluence.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Alors là, nous sommes jeudi dernier et vous entendez ici une foule réunie au festival de musique de Glastonbury dans le sud-ouest de l'Angleterre. Des milliers de personnes qui ont mis ce soir-là la musique sur pause pour regarder ensemble les footballeuses anglaises s'imposer largement en quart de finale contre les Norvégiennes. Et au total, ce soir-là, près de 8 millions de Britanniques étaient devant leur télévision, audience record outre-Manche pour un match féminin de foot. Un sommet qui pourrait être dépassé ce soir, demi-finale contre la nation phare, les États-Unis. D'avance, la capitaine anglaise Stéphanie Houghton en écarquille les yeux.
On suit les audiences qu'on fait en Angleterre et c'est à chaque fois un record. C'est fantastique pour le football anglais et tout le football féminin en général. Il y a un engouement exceptionnel, de plus en plus de fans dans les stades. Les gens viennent nous voir, veulent nous voir. C'est vraiment incroyable pour ce sport. C'est la meilleure Coupe du Monde jusqu'à présent.
Audience record au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. La chaîne Fox qui diffuse la compétition table sur une audience jamais vue pour la discipline après les presque 6,5 millions de France-États-Unis vendredi dernier.
Cette demi-finale Angleterre-États-Unis, c'est un peu une finale en fait avant l'heure.
Lyon voit ce soir l'opposition entre les deux meilleures défenses du mondial, les deux meilleures attaques sur le terrain ce soir, les trois co-meilleures buteuses de la compétition, 5 buts chacune, l'anglaise Ellen White et les deux qui font la peur, les américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan. Cette dernière, Morgan, espère dans l'Euro, ne se rappeler au bon souvenir de ces quelques mois de 2017. Elle était alors joueuse de Lyon.
C'est génial d'être de retour ici. Ce club que j'ai connu est de classe mondiale et la ville est magnifique. J'ai fait un petit tour hier matin toute seule. C'était une petite pause émotion pour moi, un moment de nostalgie. Ça m'a rappelé ces moments si importants dans ma carrière.
Près de 27 degrés attendus au coup d'envoi ce soir, 21h. L'avant-match aussi a été chaud, Nikos. Les gendarmes ont arrêté deux individus soupçonnés d'être des espions américains. Ils rôdaient aux alentours du terrain d'entraînement des Anglaises, l'un d'eux avec une caméra au poing.
Mais ça se voit comment?
Très discret. Une caméra est filmée.
Soupçonné.
Avec une oreillette et un imper.
Soupçonné.
Angleterre-États-Unis ce soir pour une place en finale.
Les ambitieuses anglaises face aux surpuissantes américaines, championnes en titre qui n'ont plus perdu depuis 10 matchs en Coupe du Monde, 10 matchs victorieux même. Et je boucle la boucle, Nikos. J'ai commencé en parlant d'audience télé record attendue dans les deux pays ce soir. L'affluence au stade à Lyon sera elle aussi record. 60 000 personnes attendues du jamais vu en France pour un match de foot féminin.
Bravo en tous les cas, ça fait plaisir. Merci Jérôme Lacroix et à demain.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Ne bougez pas, il y a du canteloup dans l'air dans un instant. Julie est déjà en studio et vous êtes radieuse ce matin, cher ami.
Thank you so much.
Don't say anything. À tout de suite.
Belle matinée à tous sur Europe 1, il est 8h40. Il est 8h42.
Il est là le loup, il est là canteloup, c'est parti.
C'est presque du direct, Nikos. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup en best-of.
Ouais.
Allez, on va revenir sur cette polémique. Le président devait-il accueillir les deux touristes enlevés au Bénin à leur retour sur le tarmac de Villacoublay? Emmanuel Macron, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, revenons aux otages. C'est vrai que c'est pas malin d'aller dans des territoires dangereux, hein.
C'est pas malin. Oui, d'ailleurs, je le redis à mes compatriotes, cette semaine sur le site martyrpascher.com, il y a une semaine en Syrie. À Damas, pension complète. Pension complètement détruite pour 250 euros la semaine. Bref, n'y allez pas. Pareil pour le trekking à Islamabad ou le saut en parachute en Corée du Nord ou la cure de bien-être à Fallujah. Qu'est-ce que ça peut être con, un touriste, franchement?
Bon, ben, ces touristes, ils voulaient simplement visiter le parc Tanjari, voilà.
Oui, mais écoutez, il y a d'autres parcs à visiter. Il y a le parc Astérix qui est très bien et puis ça m'éviterait de passer mes week-ends à Villacoublay. Puis il y a quand même d'autres destinations vacances. Je pense au Club Med de Djerba. À part un coup de soleil sur le cul, on risque pas grand-chose. Vous voyez, je suis prêt à fournir même la biafine, si vous le souhaitez. Bon,
alors, quels sont les endroits à éviter, les véritables zones à risque?
Mais écoutez, on les connaît tous, ces endroits. Il suffit d'aller sur le site du Quai d'Orsay. Il y a le Bénin, il y a l'Afghanistan, Kaboul, Mossoul, Marseille, le Soudan, la Creuse.
La Creuse est déconseillée pour des vacances. Si risqué, la Creuse.
Ah ben vous risquez de vous faire chier, oui.
Oh là là. Merci monsieur le président. On adore nos auditeurs qui habitent dans la Creuse.
Voilà. Je suis d'audience dans la Creuse.
Emmanuel Macron a annoncé la création de futures agences dans chaque canton, des agences chargées de rassembler tous les services de l'État qui s'appelleraient les Maisons France Service. Europe 1 a réussi à obtenir les coordonnées d'une Maison France Service qui est en phase de test. On va l'appeler tout de suite.
France Service du canton de Bourg-Saint-Maurice. Christiane, à votre écoute, j'écoute.
Christiane, mais vous êtes fonctionnaire maintenant?
Oh, madame Julie, je reconnais votre voix. Ah, bonjour,
après tant d'années,
bonjour.
Merci, oui.
Vous êtes avec tous vos collègues que je salue, je suppose, ce matin. Traghetto, hein. Oui, alors, enfin, oui, je suis fonctionnaire, enfin, provisoirement. Je m'occupe toujours des personnes malades, des personnes âgées, ou des personnes en phase de prémortalité. Mais là, j'ai été choisie pour les premiers essais des maisons France Service.
Alors, il paraît qu'on va y trouver les services publics comme Pôle emploi et les antennes préfectorales, mais aussi certains agents comme les opérateurs d'eau, d'électricité, de télécom, etc. Les gens vont pouvoir demander à peu près tout hein, dans ces maisons, en fait. Hein,
ah oui, on est polyvalent, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous savez, ça n'arrête pas depuis ce matin. Allez, vous voyez, quand on parle du loup, on est quitté. Pas. L'instant. Allô? Ne quittez pas, France Service, bonjour. Oui? Oui, vous désirez un titre de séjour. Vous désirez, ah, d'accord, attendez, je note un titre de séjour et 40 pizzas, 4 fromages pour l'EHPAD de Saint-Julien-sur-Maurienne. Je le note, d'accord. Attendez, ne quittez pas parce que j'ai un double appel. Allô? Oui? Oui? Un permis pour creuser une piscine. Oui, d'accord, monsieur, mais attendez, parce que là, je dois m'occuper de pizza, là. Vous pouvez me rappeler à 14h. Un instant, monsieur. Jocelyne, le chômeur de ce matin, il est toujours là. Non, bah, il pourrait me livrer 40 pizzas pour les pâtes. Oui, attendez un instant. Vous voyez, madame Julie, on expérimente. En fait, c'est le charme de la transversalité. Hein. Pour l'instant, on apprend à savoir quels sont les besoins des Français. Attends, Jocelyne, la mozzarella, tu l'as. Et est-ce qu'il te reste aussi des fiches pour les titres de séjour?
Oh là 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 là, mais vous pensez que ça va être possible de faire autant de missions différentes dans un même endroit, un même espace?
Bon, écoutez, franchement, j'espère que le gouvernement va préciser un peu son idée, parce que là, c'est un peu foutraque.
Oui, comme vous dites.
France Service, bonjour. Oui, monsieur. Vous voulez parler à une assistante sociale? Oula, une assistante. Bon, allez-y, monsieur, je peux peut-être vous aider. Comment reconquérir votre ex, oula. Alors là, vous n'adressez pas la bonne personne, parce que moi, je vais tout vous dire, je suis célibataire depuis 1987. Oh, Jocelyne. Qu'est-ce qu'il y a, Jocelyne? Oh, elle me taquine, ma collègue, qui me dit que mon dernier rapport, c'est mon rapport de stage. Ça bouge. Quelle vie, madame Julie.
Une info qui concerne Marine Le Pen. Hier, le JDD nous apprenait que pour financer la campagne des européennes, Marine Le Pen vendait des packs. Pour 15 000 euros, un cocktail en présence de Marine Le Pen. Pour 50 000 euros, un déjeuner avec elle. On va en parler avec son père. Bonjour Jean-Marie Le Pen.
Hey. Moi, j'ai donné 4 millions d'euros à ma saleté de fille. J'ai le droit à quoi? Et qu'elle se pende, n'est-ce pas? Et qu'elle saute du haut de la tour Eiffel?
50 000 euros pour un déjeuner avec elle, c'est cher quand même. Hein.
Oui, mais attendez, et encore plus cher, n'est-ce pas? J'ai la grille de tarifs sous les yeux. Un cocktail, 15 000 euros. Un déjeuner, n'est-ce pas? 50 000. Un dîner, 75 000 euros. Et une nuit d'amour, 15 euros. Et c'est déjà trop cher, les draps. Attendez, je m'avais dit, sa lingerie déjà portée, 800 euros.
Oh, non.
Non, il n'y a que son programme qu'elle ne vend pas.
Bah pourquoi?
Parce qu'elle n'en a pas.
Oh, on a compris, merci Jean-Marie Le Pen. 15 000 euros pour un cocktail, 50 000 pour un dîner avec Marine Le Pen. Tiens, Dominique Strauss-Kahn, vous vouliez commenter cette actualité? Voilà. C'est bizarre, ça, hein?
Au contraire, en matière de tarifs d'escorte, vous avez devant vous un spécialiste. Pardon, deux spécialistes, je ne vous avais pas vu, monsieur Légard.
Oh, on voit plus, alors.
Ces sommes-là, ce n'est pas pour moi, autant manger un grec. Hein,
je sens que vous êtes toujours à l'aise sur ce genre de remarques.
Donc, Marine Le Pen propose.
La bise à votre femme.
Merci.
Gina, si tu l'entends.
Arrête.
Marine Le Pen propose donc pour 15 000 euros le cocktail, pour 50 000 euros le dîner. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Trossanne ?
Bien, j'en pense qu'elle s'emmerde pas mal, maman. Non, elle s'emmerde pas, maman. Franchement, j'ai connu beaucoup mieux pour moins cher. J'ai vu les dernières photos de maman. 15 000 boules, n'y allez pas, s'il y en a.
On va terminer avec un petit mot de l'affaire Hallyday. Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent pour juger le litige. Il a donc confirmé que le chanteur était bien français.
C'est dégueulasse. It is dégueulasse.
Bonjour Laetitia Hallyday.
Bonjour, hello everybody. Et everybody pour les filles, bien sûr. I repeat, I am American.
Mais enfin, vous n'êtes pas américaine, Laetitia, et Johnny non plus d'ailleurs, hein, le tribunal l'a encore rappelé hier.
Mais c'est faux, Julie. Johnny était pas français, je le prouve, j'ai ici ses analyses.
Ah, vous avez ses analyses ADN ?
Non, ses analyses de sang.
Oula.
Il était irlandais à 54 degrés, de la lignée de la famille de Johnny Walker. Il était russe également à 44% de la lignée des Smirnov. Et ils ont trouvé, je vais te dire, ils ont trouvé juste deux globules rouges de Beaujolais. Il n'était pas français.
Mais si, enfin. Il était quand même un peu français. Même carrément. Il était né à Paris dans le 9e arrondissement. Mais
non,
si.
J'ai ici son passeport. J'ai son passeport. Il était suisso-belgeo-monégasco-panaméen.
Oh, bon, enfin, ça existe, ça.
Mais, j'espère.
Bonjour, c'est Patrick Balkany. Je vous confirme que ça existe. Je suis moi-même belgeo-monégasco panaméen.
Mais mon best-of, c'est du caviar. C'est Nicolas Canteloup. Merci aux auteurs Laurent Vassilien, Arnaud Demanche et Philippe Cavrivière. Et évidemment, bravo Julie. Le tour de la question avec Wendy Bouchard dans quelques instants, dans moins de 10 minutes. Vous parlez de quoi ce matin, ma chère Wendy ? Bonjour.
Bonjour, cher Nico, ses chers amis. Alors, on va parler des écoles qui fermeront à la fin de la semaine définitivement. À peu près 400 en France. Ça sera un crève-cœur pour les enfants, pour les professeurs, pour les maires de ces villes, de ces petits villages de province. Certains seront avec nous pour réagir. Je poserai la question directement à Jean-Michel Blanquer qui a bien voulu participer à cette émission avec nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que l'école est le grand sacrifié de l'aménagement du territoire, comme à l'époque les hôpitaux, les maternités, un certain nombre de services publics de fond et de qualité. Puis à partir de 10h, que se cache-t-il derrière le radeau de la Méduse, ce tableau mondialement magnifique, connu de Géricault qui est exceptionnel ? Eh bien, on fait un peu comme Darda, vous savez, on va vous raconter les coulisses de cette histoire vraie, véritable échouage et le naufrage de ce radeau de la Méduse qui a marqué la France du 19e siècle dans les faits divers, 1816, la date exacte.
On attend vos appels pour le tour de la question 39-21. À suivre la météo, puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Et il est 8h55 à suivre l'essentiel de la matinale. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol, oui. Vous nous avez fait tout au long de la matinale une liste exhaustive des endroits de France où les orages frapperont aujourd'hui.
Oui. Ben oui, c'est essentiellement le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard. Et si, pour être un peu plus précis, la région Rhône-Alpes sera touchée aussi, la vallée du Rhône et Languedoc-Roussillon et le delta du Rhône. Voilà, ce sont des secteurs à haut risque aujourd'hui. Ce sont des orages qui sont consécutifs à la vague de chaleur que nous avons eue. Et ces orages sont d'autant plus violents que les températures sont encore élevées. En ce qui concerne les autres régions, celles qui sont situées au nord de la France, toutes les régions qui bordent la Manche et la mer du Nord, mais aussi la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, le Berry, la Bourgogne et la région parisienne. Ce sera une journée ensoleillée et fort agréable avec des températures de 19 à 27, 28 degrés, mais ce ne sera pas au-delà. Mm-hmm. Et dans le sud, ce sera entre 29 et 32 pour presque tout le monde et une poche d'air chaud, Avignon et Nîmes, entre 36 et 38. Ce sont des secteurs d'ailleurs où les orages vont éclater aujourd'hui.
Dans le Gard, 38 degrés. Ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
On revient, Nico, sur les moments forts de cette matinale.
Coup de massue pour les salariés de Conforama. Ils ont appris hier soir par les syndicats que 32 magasins sur près de 200 allaient fermer. 1900 postes supprimés. Tout cela dès l'année prochaine. Les 9000 salariés s'attendaient à une restructuration, mais pas si brutale. Écoutez Mouloud Amour, secrétaire du comité central d'entreprise de Conforama.
32 magasins qui ferment, 1900 postes supprimés en France. C'est un véritable scandale parce qu'effectivement, on s'attendait à une restructuration, mais pas aussi lourde, pas aussi dramatique, pas aussi importante. C'est vraiment un choc, quoi, extraordinaire et insupportable. Les salariés ainsi que les élus sont choqués par l'annonce qui vient d'être faite par la direction générale de Conforama.
Le coup de colère d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Les 28 ont échoué hier à se mettre d'accord sur le casting des dirigeants de l'Union européenne. Ils doivent se retrouver une nouvelle fois ce matin à 11h pour tenter de trouver un consensus. Comment expliquer cette impasse? L'édito de Jean-Michel Apathy, c'était à 7h40.
Il y a plusieurs éléments qui s'agrègent pour expliquer la crise européenne. D'abord, il y a un changement d'axe. Les pays de l'Est ne sont plus, comme elles l'étaient avant, soumises aux diktats ouest-européens. Ça paralyse l'Europe. D'autre part, il faut le dire simplement, Angela Merkel est en bout de course, elle n'a plus le leadership qu'elle avait avant. Et puis il y a un troisième facteur qui joue, il n'y a plus de personnalité européenne sur la scène. Et donc quand on agrège tous ces éléments, on a une Europe en crise, il n'y a pas que le climat qui est déréglé en Europe aujourd'hui.
L'Union européenne à la une également avec cet accord de libre-échange signé avec le Mercosur qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Un accord très critiqué pour ses conséquences néfastes sur l'environnement dans le viseur les écolos, le Brésil. Réaction ce matin du ministre de l'écologie François Drugy, il était l'invité politique de David Doucan à 8h15.
Le fait que le Brésil s'engage à respecter l'accord de Paris, c'est une conséquence indirecte de cette diplomatie du bras de fer que le président de la République a instauré en disant on ne signe pas d'accords commerciaux avec les États qui sortiraient de l'accord de Paris. Le Brésil doit aussi protéger la forêt amazonienne.
Mais il s'est engagé à arrêter de déforester.
Ça fait partie du bras de fer.
Oui, c'est pas fait.
Et c'est pour ça que l'accord commercial qui a été signé avec l'Union européenne, pour moi, il n'est pas ratifié.
Voilà.
Et il ne sera ratifié que si le Brésil respecte ses engagements.
Voilà pour l'essentiel, ce qu'il ne fallait pas rater ce matin dans la matinale d'Europe 1. Merci à toutes les équipes, à vous, chers auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, on vous accompagne. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, prenez soin de vous. Wendy Bouchard arrive, Céline Dacosta, je vous dis à demain, cher ami. Et je vous laisse avec...
Merci Nico, à demain.
Mademoiselle Julie Leclerc. Julie Leclerc. J'ai envie de faire Canteloup, je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Allez, bonne émission. Je vous écoute dans la voiture, hein, le radeau de la Méduse.
Ah,
passionnant.
Vous aussi, vous l'aimez ce tableau. Hein. Rendez-vous au Louvre, mais aussi dans le studio d'Europe. Merci. À tout de suite.
Vos appels pour Wendy au 3921 dès maintenant.